Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix du Brésil à Interlagos. La dernière course de la saison est toujours particulière, car ce sont les derniers espoirs, les dernières chances de briller, mais aussi les dernières déceptions avant de dire au revoir au cirque de la F1. Et pourtant, parfois, ces sentiments s'en mêlent. La preuve, Mark Webber était-il vraiment complètement content de gagner dimanche? Et en même temps, vous savez quoi? Bah, je m'en fous un peu de Mark Webber. Je m'en fous un peu de la course. Parce qu'aujourd'hui, on est mardi. Et aujourd'hui, Kimi est de retour.
Ah non.
Pour m'accompagner, comme d'habitude, bonjour Dino.
Bonjour Shinji.
Ça va? Passé une bonne journée?
Journée de merde.
Moi, j'ai passé une très bonne journée.
Mon pire cauchemar arrive.
Et Dino, comme d'habitude, nous ne sommes jamais seuls.
Oui, mais tu vois, Shinji, avant de présenter l'invité, j'aimerais être nostalgique. Parce que c'est la dernière émission de la saison. On a vécu beaucoup de grands moments. Et je sais pas si tu te rappelles, ça devait être aux environs du, c'était le Grand Prix de Hongrie, c'était la fin juillet, et j'ai lancé ce cri profond, ce cri qui vient de l'intérieur. Surtout si vous voulez participer à l'émission, hein, n'hésitez pas, envoyez-nous un message, et je renouvelle mon appel. Tu es une fille. On te veut dans l'émission. On pense notamment à Maël, par exemple. Maël, quoi, t'es notre fan à nous, enfin, t'es la fille depuis des années. On aimerait t'avoir une émission un jour, quoi, merde. Bonsoir, Maël.
Bonsoir, tout le monde.
Ça y est, on peut mourir, je dis.
Quand même. Non, merde, j'ai encore au moins 2 ans à vivre.
Faut qu'il voit Kimi. Faut qu'il voit Kimi en 2012.
Mais il l'a déjà suffisamment vu. Ça va, Maël?
Oui, ça va.
Heureuse de revoir Kimi?
Bon, c'est pas mon pilote préféré, donc...
Ah, c'est qui ton pilote préféré? Ça, c'est une bonne question.
Alonso.
Ah, voilà, voilà, tu vois, j'ai dit, voilà.
Écoutez, vous avez le droit d'être dans l'erreur, c'est pas grave. Je vous pardonne. Aujourd'hui, je pardonne tout.
Non, mais voilà, c'est... Faut enfin qu'on invite une femme pour qu'on retombe sur un invité qui a du goût.
C'est vrai que notre précédent invité masculin était pas non plus... Non, t'as raison.
Les fans de Lewis, par exemple.
C'est vrai, et ça existe encore.
Des fans de Jérôme D'Ambrosio? Un plus pour longtemps?
Ça existe encore, mais pas en F1, malheureusement.
C'est vrai. Bon, on est très content d'avoir Maël.
Oui,
Maël, t'es un peu notre Marianne à nous. Voilà, t'es notre symbole, t'es notre étendard.
Bah, lui met pas trop la pression non plus, hein.
Ah non, mais ce soir, je mets la pression à tout le monde, attention. Plus personne pourra exister après Maël dans cette émission, c'est pas possible.
Sinon, n'oublions pas que si on est réunis ce soir, c'est pour parler. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un événement beaucoup plus important aujourd'hui, mais c'est quand même pour parler du Grand Prix. Et je vais commencer par cette question traditionnelle. Qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix du Brésil?
L'honneur aux dames.
Bon, ça a été... Bon, à part des fois, il était chiant. Et surtout avec la pub. Ils nous ont foutu la pub quand à des mauvais moments.
Oui, alors c'est vrai, t'as raison. Cette semaine, ils étaient particulièrement inspirés au niveau des pubs.
Mais on a quasiment vu aucun dépassement... Bah, pour tout dire, c'est moi qui ai fait le résumé sur Fan F1 et il y a des moments pendant la pub, il se passait, je sais plus quel mec a dépassé, je crois que c'est Alonso qui a dû dépasser.
Ouais, Alonso sur Button.
J'ai écrit le dépassement comment je voyais, j'imaginais qu'il se passait avant de voir le replay et puis je me suis dit bon bah en fait ça s'est passé comme je le pensais donc ça va.
Non, c'est vrai. Oh non, c'était quand même une course sympa avec des dépassements avec et sans DRS, ça c'était bien.
Oui.
D'ailleurs, entre Button et Alonso, on a eu les deux. Il y a eu avec et sans. Bon.
Oui, non, mais le dépassement d'Alonso sur Button, c'est un dépassement avec débris. C'est ce qu'a expliqué Button. Il a dit, ouais, il y avait des débris, j'ai voulu me décaler, mais il y avait Alonso sur le côté, donc j'ai pas voulu aller à l'accrochage. Tu t'es fait dépasser.
Surtout.
C'est surtout, c'est qu'il s'est fait dépasser. Et puis après, bon, il s'est pas juste fait dépasser. Il s'est fait dépasser, et puis Alonso, en quoi? En deux tours, il avait déjà trois secondes d'avance. Donc voilà, tu as vraiment beaucoup ralenti pour éviter les débris.
On a vu sur toute la piste.
Ah oui.
Ah, il y avait Barrichello.
Et Senna. Alors, n'oublions pas, nous étions le 27 novembre. Ah bah oui, hein, c'est la dernière de la saison, mais vous allez pas y échapper. Hein.
Merde.
C'est pas merde.
Oh, bah ouais, non,
c'est la dernière de la saison, t'es au moins tranquille pour les 3-4 prochains mois.
Ouais, bah...
Prends les choses du bon côté.
Je veux dire que ça va revenir l'an prochain. Oh non.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite. elle fait... C'est pas drôle en fait.
Nous étions donc le 27 novembre. Et cette semaine, j'ai eu envie de remonter loin, hein, parce que hein.
Non mais ça même va, Maël, c'est un chic. Pas non mais sérieusement, on a mal ce soir, quoi. Fais un effort.
Hey, je fais des efforts. Hein. Je pourrais remonter à des années avant Jésus-Christ, je ne le fais pas. Puisque quand même, en 511, ça commence par un décès, hein, mais c'est le décès d'un type quand même important de l'histoire de France, c'est de Clovis, le premier roi de France, roi des Francs, premier roi baptisé même. Qui est né sans doute, hein, parce que bon, c'est il y a 1500 ans, en 466, et qui est probablement mort en 511.
Oui, donc en fait, t'es en train de nous dire qu'il s'est passé un truc, peut-être, mais qu'on sait pas.
Ah, c'est il y a 1500 ans, hein, si tu veux, à l'époque, BFM TV n'existait pas, hein, on n'est pas sûr.
Mais ils sont sûrs que c'est le 27 novembre?
Bah, si on n'est même pas sûr de l'année...
Voilà, c'est surtout ça que je m'inquiète.
Rassurez-vous, le reste sera plus récent, hein.
Et plus fiable. Puisque...
plus fiable. C'est très intéressant que tu parles de fiabilité, puisque le 27 novembre 1701, c'est la naissance d'un astronome et d'un inventeur, c'est Anders Celsius, celui qui a inventé le degré Celsius. Donc, zéro température où l'eau se fige et 100 degrés température où l'eau s'évapore. Et c'est la base. Et il est mort jeune, hein, il est mort à 43 ans.
Ouais, bah il avait atteint les 100 degrés.
Ça n'a rien à voir, mais... Voilà. Sinon, le 27 novembre 1826, c'est l'invention des allumettes à friction. Autrement dit, des allumettes. Par John Walker.
Texas Ranger.
Mais le gars, quand même, il a eu l'idée de l'invention des allumettes. C'est-à-dire qu'avant lui, les allumettes à friction, ça n'existait pas.
Mais c'est celle que tu pouvais allumer en grattant sur n'importe quoi.
Bah voilà.
Comme les cowboys, là.
Exactement, ah. Comme Walker, Texas Ranger.
Trop beau.
Tu vois, tout est lié. Sinon, au 20e siècle, en 1913, c'est la parution d'un roman. Alors, non pas le roman de Dave, mais le roman de Marcel Proust, du côté de chez Swann. Là, faut la comprendre, la blague.
Ah, le roman de Dave. Ah, parce que c'est un truc hollandais, non?
Non, par rapport à la chanson.
Non, parce qu'il a fait une chanson du même titre.
J'adore, c'est que je fais le mec qui comprend 3 heures après, et Suji me prend 13 heures. Non, mais c'est une chanson du...
Je ne préfère rien dire. De toute façon, je te l'ai dit, tu es pardonné aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Tu as mon pardon pour 24 heures au moins.
Oui, Dieu a ressuscité.
Comme d'habitude, hein, les dates de 1940, comme tu le dis si bien, dis-toi, hein, sont des dates merveilleuses. Puisque le 27 novembre 1940, l'Alsace-Lorraine était annexée par l'Allemagne.
Oh, bah c'était un bonjour.
Comment on dit, c'est une question de point de vue. Mais le même jour, c'est une excellente nouvelle par contre, parce que oui, rappelons-le aussi, en 1940, il peut y avoir des bonnes nouvelles. Et là, je vais évoquer en fait la naissance de 3 dieux, hein, donc sur 3 années de suite, puisque en 1940, c'était la naissance de Bruce Lee.
Ouais.
Qui est mort à 33 ans, malheureusement. Réalisateur, acteur, producteur, scénariste, et surtout, pétage de gueuleur, hein. On sait bien, hein. Sinon, en 1941, un autre dieu, d'une certaine façon, c'est Aimé Jacquet. Et pour beaucoup d'hommes en France, c'est un dieu. Rappelons-le.
Ouais.
Et enfin, en 1942, un autre dieu, c'est Jimi Hendrix.
Ah bah oui.
Donc lui aussi, hein, qui est mort en 70, donc, jeune. Donc, dieu de la musique, dieu de la castagne et dieu du foot. Grande journée.
Pas dans l'ordre.
Non, là, en fin de...
Tout d'un coup, ça devient bizarre.
Écoute, Hendrix était peut-être super bon en foot, hein. Oui. Tu ne le sais pas.
Et puis Bruce Lee avait une très belle voix.
Oui.
Oh.
Sinon, en 1951, c'est l'accord sur la ligne de cessez-le-feu en Corée. C'est la fameuse limite du 38e parallèle. Je crois qu'on en a déjà parlé, en plus, je crois, à l'occasion du Grand Prix de Corée. C'est-à-dire que c'est cette fameuse frontière où il y a une zone dite démilitarisée.
Ça, c'est le genre de mot. Je dis, il est stabilote. Celui-là, faut qu'il fasse gaffe.
Voilà.
Mais à chaque fois, il tombe dedans.
C'est une zone démilitarisée. Mais en fait, de part et d'autre, c'est en fait la frontière la plus militarisée au monde. Parce que c'est celle où se regardent face à face la Corée du Nord et la Corée du Sud depuis 60 ans. Sinon, en 1974, une grande découverte pour l'histoire de l'homme, c'est la découverte de Lucie.
Ah. La chanson ou en l'os?
Alors, l'os, et les os viennent de la chanson.
Oui.
C'est parce qu'ils écoutaient la chanson Lucy in the Sky in Diamonds qu'ils ont nommé le squelette Lucy. Donc, plus vieil humain, vieux de 3 millions d'années quand même. Notre ancêtre à tous.
Et c'était déjà une femme, Maël, tu te rends compte?
Oui.
Vous êtes plus vieux que nous, c'est...
On a dit pas de blague de ce genre ce soir.
C'est pas une blague de mauvais genre.
Sinon, en 1975, Juan Carlos Ier accède officiellement au trône d'Espagne en prêtant serment. Donc, grande journée pour l'histoire de l'Espagne et l'histoire de la démocratie espagnole. Sinon, une date que peu de gens vont tilter, mais c'est une spéciale dédicace pour Dino et moi. Hein, c'était le décès de Fernand Braudel, historien français.
Il écrit quoi, lui, déjà?
Tu sais, le truc, la Méditerranée sous Philippe II, là.
Oui, voilà, oui.
Hein, tu sais, le truc qu'on a entendu parler pendant 3 ans d'études,
oui,
tout le temps.
Oui, voilà.
Ouais, c'est merveilleux et tout, qu'on l'a jamais lu. Et sinon, en 2005, c'est une première scientifique et première médicale, le professeur Dubernard transplante pour la première fois au monde la face d'une personne décédée sur une femme défigurée. Donc après le cœur, après les mains, voilà, la greffe d'un visage, carrément. Sinon, dans les jours... Alors, il n'y a pas de journée internationale.
Oh.
Oh, c'est triste, hein. Alors, en Espagne, c'est le Dia del Maestro, la fête des professeurs. Encore une fois, il y a plein de pays qui ont fait des profs. Ah ouais, c'est dingue, hein. Il n'y a qu'en France, il n'y a pas de fête des profs.
C'est bizarre.
Et sinon, au Sri Lanka, c'est le jour des héros, en mémoire des 17 000 guerrieros des tigres de libération de l'Ilam Tamoul, en fait.
J'ai tout compris.
Ouais, moi non plus, j'ai rien compris.
Ils ont libéré des tigres.
Non, c'est eux qui se surnomment les tigres.
Ah.
Là, ils vont pas s'appeler les castors, tu vois, ou les faisans de libération.
Les perruches de la libération.
Les perruches, hein, les tigres.
Les canaris.
Canaris, pourquoi pas. Au Brésil, encore une fois, une journée formidable. Le Dia do Técnico de Segurança de Trabalho.
Attends, j'ai compris Travelo.
Dia do Técnico de Segurança do Trabalho.
Ah, la sécurité du travail.
Exactement, c'est la journée du technicien de la sécurité du travail.
Le technicien de la sécurité du travail.
Voilà, c'est-à-dire que les gens qui s'occupent de la sécurité du travail dans les entreprises, ils ont leur journée. Hein.
Mais les mecs qui sont conscients que dans l'année, il n'y a que 365 jours.
Parce qu'après tout, si les comptables publics ont leur journée, hein, si les ingénieurs informaticiens ont leur journée, pourquoi les techniciens de la sécurité du travail, ils n'auraient pas droit à leur journée, hein? Bah, au Brésil, ça existe. Alors, en F1, ce jour-là, alors il n'y a pas de Grand Prix.
Oui, non.
Eh oui, oui, parce que c'est vrai que un 27 novembre, c'est très rare qu'on ait fini aussi tard. Les rares grands prix qu'il y a pu y avoir après mi-novembre, hein, globalement, c'est surtout des grands prix d'Afrique du Sud. Hein. On allait là-bas au mois de décembre parce que forcément c'était l'été là-bas. Mais alors, il y a quelques pilotes qui se sont distingués, qui sont nés ou qui sont décédés ce jour-là.
Oui, c'est une manière de se distinguer.
C'est une manière de se distinguer. Le 27 novembre 1995, alors malheureusement c'est un décès, mais que voulez-vous, j'ai pas eu beaucoup de choix hein, aujourd'hui, hein, donc il a fallu que je fasse avec ce que j'ai.
95, c'est le décès d'un pilote?
Oui.
Non, pas en course.
Il est décédé à 60 ans d'un cancer, malheureusement.
Attends, on va deviner. 95, ça fait 35, donc c'est un pilote du début des années... Fangio?
Non, un peu plus tard.
Ah non, de toute façon, Fangio n'est pas 60 ans, je suis con.
C'est plutôt des années 60.
Années 60. Il est décédé où?
Il est décédé à Milan, en Lombardie, ce qui est bien, puisqu'il est né à Milan, en Lombardie.
Donc c'est un Italien.
Tu es fort.
Italien champion du monde?
Non, c'est pas un Italien champion du monde.
Mince, ça m'aurait arrangé.
Mais il est victorieux en F1.
Lambrilla?
Non, si tu le trouves, t'es fort. Mais peut-être que tu peux le trouver.
Ah bah non, si tu dis ça, c'est que c'est mort.
Il a une victoire en F1.
Alors.
Tu as le droit de donner ta langue au...
Je donne ma langue au chat.
C'est Giancarlo Baghetti.
Mais oui, Baghetti, oh.
C'est vrai, je t'ai dit, je pense que t'aurais pu le trouver. Donc, qui a gagné une victoire, alors qui a pas fait une carrière, Grand Prix de France. Et, la particularité, donc, il a pas fait une grande carrière en F1, mais en fait, sa victoire, il l'a eu, lors de son premier Grand Prix.
Ah oui, c'est pour ça qu'il est connu, oui.
Voilà, c'est souvent ça qu'il est connu. Mais je ne vais pas parler des pilotes qui ont gagné dès leur premier Grand Prix.
Oui,
ça. Parce que cette victoire, elle a aussi une autre caractéristique. C'est qu'elle fait partie des victoires les plus serrées de l'histoire.
Oh.
Alors, est-ce que vous avez une idée de l'écart qu'a pu y avoir? Hein, savoir le deuxième, c'était Dan Gurney.
Non, on en a pas déjà. Il y en a pas eu déjà un sujet sur ça, vous les savez, je crois. Vous en avez pas déjà parlé?
Oh la vache, non. Comment t'es pris en flag, là?
Non.
Je crois... Oui, il y avait une question sur ça, je crois, aussi. Au concours top position.
Ouais, t'as pu poser, ouais, des questions... Oui,
ah, peut-être,
oui.
Ouais.
Si, si, je me rappelle, c'était une question sur un grand prix. Il fallait trouver justement quelle était la particularité du grand prix. Et la particularité, c'était l'écart extrêmement faible entre le premier et le deuxième. C'est dans ce sens-là qu'on en a parlé. Donc là, en 1960, est-ce que vous avez une idée de l'écart?
Et c'était en France?
Grand Prix de France 1961, ça devait être à Reims. Oui, qui était un grand prix très très rapide.
Une demi-seconde.
Moins que ça encore.
Un millième. Trois millièmes.
Un dixième.
Exactement, un dixième. Un dixième. Dans le classement des écarts les plus courts, hein, c'est le septième quand même. Alors, si on sur StatF1, ils ont répertorié en fait toutes les arrivées inférieures à une seconde.
Mais bon, vous avez... en même temps, est-ce qu'à l'époque, on comptait jusqu'au millième?
Je pense qu'ils doivent écouter, alors peut-être pas jusqu'au
ils
millième.
Ils doivent, j'ai dit, t'es pas en forme ce soir.
J'ai dit qu'ils devaient.
Non, t'as dit qu'ils doivent. Maël, il a dit qu'ils doivent.
Je crois.
Merci Maël.
Et donc, ils devaient sans doute compter, je pense au centième.
Oui.
Au centième quand même. Pas au millième, mais ouais, au centième. Donc d'après vous, si on prend toutes les courses qui se sont finies à moins d'une seconde d'écart, combien on trouve de courses sur les plus de 800 qu'on a connues en F1?
Une douzaine.
Plus que ça.
Une centaine.
Tu es plus proche, mais en fait, c'est entre les deux.
70, 60.
Ah, t'es pas mal. C'est
65.
C'est 63. Il y a eu 74 courses. Alors la 74e, en fait, il y a une seconde d'écart. Donc, alors, est-ce que vous avez une idée du plus petit écart enregistré?
Le deuxième, ça doit être Schumacher-Barrichello à Indianapolis.
Exactement.
Je me rappelle qu'il voulait essayer de le faire.
Et c'était 11 millièmes. Et c'est le deuxième.
Et le pli, c'est... Ah oui, non, c'est une course dans les années 80.
C'est pas
non.
Avec Senna.
Avec Mansell, non? Senna Mansell en
Espagne. Elle est troisième. C'est Espagne 86, je pense que c'est celle-là, justement, on avait posé une question. Et c'est 14 millièmes.
Bon, c'est un Indy 500.
Eh ben, tu sais quoi, étonnamment, dans les 74...
Il n'y en a pas un seul.
Il n'y en a pas un seul, ça c'est une vraie surprise, ouais.
Alors, pourtant, tout s'y prête.
Oui, oui, bah oui, c'est typiquement le Grand Prix pourrait. Mais le premier, bah, c'est plus petit encore que États-Unis 2000. C'est plus petit que 11 millièmes. Ah, y a pas beaucoup de possibilités, hein,
attends. Un millième? Deux millièmes?
Non.
Trois millièmes?
Cinq millièmes?
Sept!
Huit?
Neuf!
Dix?
C'est nul, c'est dix!
Je viens de le dire!
Ah ouais, mais bon! Tu le dis à la fin, c'est plus vraiment. C'est Italie 1971, c'était Peter Gettin devant Ronnie Peterson, 10 millièmes.
Oui.
Donc, 1 centième.
Oui, oui, en plus, alors, si je me trompe pas, je l'ai lu il y a pas longtemps, il va y avoir Sever dans le lot. Et il y a dans le livre Sever, La mort dans mon contrat, il y a une description de l'arrivée qui est hallucinante, quoi.
Alors d'après vous, donc sur ces 74 grands prix, on retrouve, alors c'est très disparate, hein, on trouve vraiment des courses de toutes les époques, vraiment des pistes, c'est très diversifié.
Oh, il y a Monza.
Mais voilà, alors j'allais vous demander justement d'après vous quelles étaient les deux pistes qu'on retrouvait le plus. Donc en effet, il y a Monza 9
ouais.
fois.
9 fois, j'aurais dit plus.
9 fois hein, sur 74. Et il y en a un deuxième qui est quand même à 7.
Monaco.
Exactement.
Ah bon, c'est,
on a les deux extrêmes.
Eh ben, j'aurais pas imaginé Monaco, tiens.
Bah, je pense que justement, c'est l'effet des deux extrêmes. C'est-à-dire que t'as Monaco, où voilà, c'est vraiment le côté vitesse, aspiration, comme tu disais, ce qui fait que c'est étonnant même de pas retrouver des Grands Prix d'Indianapolis où c'est très très serré. Et puis Monaco, je pense, bah, parce que justement, comme c'est très très lent, il y a peu d'écart. Et en effet, on retrouve quand même 7 fois le Grand Prix de Monaco. Alors si on prend les courses qui ont été les plus rapides, c'est-à-dire que les 10 premières, on est de l'ordre de 200 millièmes d'écart, hein, donc 2 dixièmes d'écart. Donc on l'a dit, hein, il y a Italie 71, États-Unis 2002 qu'on a évoqué donc avec Barrichello et Schumacher, Espagne 86, donc Senna et Mansell, 14 millièmes, il y a Autriche 82 entre De Angelis et Rosberg, 50 millièmes, il y a Italie 69, Stewart et Rins, 80 millièmes, il y a la France en 54 et en 61, hein, c'est de là qu'on est parti. Donc en 54, c'était Fangio contre Karl Kling, donc pour un dixième. En 8 et 9, on retrouve encore le duo Schumi-Barrichello. Il y a eu Canada 2000. Là, c'était pour à l'avantage de Schumi, 174 millièmes. Et en Autriche 2002, hein, bah oui, forcément.
Ah, ce Grand Prix. Ah, je crois que c'est ce Grand Prix, mon meilleur Grand Prix.
182 millièmes. Et donc, on trouve en 10e et 11e place, Grande-Bretagne 55, Moss devant Fangio, 200 millièmes. Et Italie 67, Surtees devant Brabham, 200 millièmes. Et ce qui est étonnant aussi dans le classement, c'est que vous avez remarqué quand même dans les 10, enfin 11, on retrouve quand même trois fois le duo Barrichello Schumi.
Oui.
Mais c'est pas les seuls. C'est-à-dire qu'on trouve aussi à la 16e place Italie 2002, Barrichello devant Schumi pour 255 millièmes. On trouve Europe 2002, Barrichello devant Schumi pour 294 millièmes. Monaco 2001, Schumi devant Barrichello, 431. Hongrie 2002, Barrichello devant Schumi, 434. Japon 2002, Schumi devant Barrichello, 506. Et c'est à peu près tout. On les retrouve dans d'autres, mais avec d'autres pilotes. J'ai remarqué, il y a du 2001, il y a du 2002, mais pas du 2004, par contre.
Bien. Pourtant, Barrichello, il était en forme en 2004.
Et sinon, on peut noter, il y a des courses très très récentes, hein, dans la liste. J'ai noté, alors, il y a deux courses, je crois, de 2010. Il y a Singapour 2010. C'était Alonso oui. devant Vettel, 293 millièmes.
Logique.
Il y a Japon 2010. Vettel devant Weber. Voilà, c'était 905 millièmes, c'était déjà un petit peu plus. Et il y a même une course de 2011.
Canada, non?
Canada.
Même pas. Il avait perdu un petit peu plus de temps que ça en faisant sa
une
petite
course de 2011.
Et c'est vrai que moi aussi, hein, j'ai cherché le Canada parce que je pense, mais non.
Monaco?
Alors quand même, hein, au Canada, c'était 2 secondes 7, hein. C'est pas énorme.
Ouais.
Mais il y a eu moins.
C'est pas Monaco avec le drapeau rouge?
Monaco, c'est 1 seconde 1.
Oh putain, fais chier, Sébastien, merde.
Pas la Hongrie?
La Hongrie.
Non, il y a un peu plus de marge, je crois.
La Hongrie, 3 secondes 5.
La Belgique, peut-être?
Non.
Non, la Belgique, non.
C'était avant Monaco, même.
La Turquie?
Alors, après la Turquie.
L'Espagne?
Espagne,
630 millièmes.
C'était qui devant qui?
Ah bah oui.
Non, mais oui, en plus, elle est énorme, cette course, enfin, entre Vettel et Hamilton.
Donc voilà, c'était tout pour les plus petits écarts entre un premier et un deuxième sur des grands prix.
Et est-ce qu'il y a des grands prix du Brésil dedans?
Il y en a eu deux. Il y a eu Brésil 2002, Schumacher devant Schumacher. Je vous laisse deviner lequel devant lequel. Hein.
Ah, Ralph.
588 millièmes. Et 2003, Fisichella devant Kimi, 945 millièmes.
Il est particulier.
il est spécial, celui-là. Donc, que de pour le Brésil.
C'est bien, déjà.
Oui.
C'est pas nécessaire.
On va passer à l'actu.
Un circuit qui s'y passe. Oh non, pas l'actu, Shinji. Je propose qu'on aille directement sur la couvre, Shinji, l'actu. L'actu, y a rien d'important sur l'actu, Shinji.
Sur du.
Oui, voilà, c'est... Allez, on passe au qualif, Shinji. Allez, les qualifs, allez.
Non.
Allez, Shinji, les qualifs, s'il te plaît.
Non.
Bon, d'accord, l'actu. Alors, vous connaissez le principe maintenant, hein. C'est les dix actus les plus lus, hein. Bon, on va pas faire suspense, hein. Il y en a une, vous savez qu'elle est dedans. Reste à savoir. Où. Mais on peut déjà parler de la 11e actu.
Bah oui, parce que jusqu'à aujourd'hui, elle était 10e quand même.
Qui fait pas partie des 10, mais quand même, on a envie d'en parler, puisque je crois que c'est la première fois qu'elle se retrouve à ce niveau-là, cette actu. On peut être fier. C'est le SAV du Grand Prix d'Abu Dhabi.
Merci.
Donc voilà, donc l'occasion de vous remercier, chers auditeurs et téléacheteurs. Bonsoir. Après le reste, je pense qu'on peut.
Non, vas-y.
J'ai dit, il y a plein de rumeurs, il y a plein de trucs pas vrais. Faut pas croire tout ce que tu dis. Même tu sais, maintenant avec Photoshop, on fait des montages, voilà, c'est facile de mettre la tête d'un pilote sur une combinaison ou même une vidéo, non, tu vois.
Quelqu'un pouvait être beau en noir et jaune.
Bon, alors la 10e actu, c'est une actu que je pense qui va beaucoup intéresser Shinji aussi. C'est le V6 Turbo Honda pour McLaren en 2014, point d'interrogation.
Là, tu peux mettre le point d'interrogation. Là, on peut parler de la rumeur.
Bah, je sais pas, il y a Williams Renault l'année prochaine, peut-être McLaren Honda dans 2 ans.
Ah, ça a été démenti par McLaren.
Mais bientôt, il y aura Ferrari.
Ça existe déjà, ça.
Il y aura McLaren, Ferrari.
Non, faut pas rêver, là.
Il y aura Lotus, Ferrari. Il y aura Red Bull, Ferrari. Ah, trop beau. Bah oui, parce qu'ils voudront pas perdre Sébastien Vettel. Bah, qu'est-ce qu'ils feront? Prendront un moteur Ferrari. Ils vont faire ça. Ouais, bah, t'auras l'impression de rouler sur une Ferrari bleue. Hein. Bon, d'accord, c'est pas un cheval, c'est un taureau, mais bon, on fait un effort d'imagination.
Non, mais ce qui était drôle avec cette rumeur, c'est que, elle ne reposait sur rien de concret. Et en même temps, elle paraissait, je vais pas dire crédible, plausible.
Bah, c'est parce que tout le monde en rêve. Enfin, à partir du moment donné où tout le monde en rêve, ça tout.
Non, voilà. C'est vrai que la situation fait que, voilà, on sait que entre McLaren et Mercedes, c'est plus les grands amours, enfin. Et puis, apparemment, ça fait un an qu'il y a des rumeurs au Japon disant que Honda voudrait revenir, et ils reviendront un jour en F1, ça c'est probable.
Mais, donc, voilà. Mais il faut qu'ils reviennent avec Nick qui gagne. il aurait fallu qu'ils reviennent avec Brown.
ouais. Et Honda reste un des noms plausibles, hein, pour les nouveaux motoristes.
Bah, sur le turbo, ça leur correspond.
Et puis, c'est ce qu'ils ont fait de mieux en F1, hein, les moteurs, donc. quitte à revenir, autant revenir dans ce domaine-là.
Ouais. On passe à la 9e actu ?
Oui.
C'est Bruno Senna, a-t-il sa place en Formule 1 ?
Ah là là.
Maël, qu'en penses-tu ?
Bah, premier Grand Prix en Belgique, il avait bien... Non, il avait bien marché, mais depuis...
Bel qualif, beau départ.
Ouais. Un peu absent, on va dire.
Oui.
Mais peut-être, ouais, peut-être persévérer, on sait jamais.
Bah là, ce qui est dommage, en plus, ce week-end, c'est qu'il a fait une belle qualif.
Ouais.
Il fait 9e, vraiment oui. Mieux que Petrov.
Et il croit Schumi.
Voilà. Oh, dommage. C'était bien tenté, essaye, peut-être, on verra.
Apparemment, ses sponsors pourraient peut-être lui permettre... de rester, hein.
Où ça?
Mais,
Ouais, chez qui?
Chez Williams Renault.
Ah! Bah, écoute. Non, mais là, c'est sûr que vu comment les choses ont évolué, chez Lotus Renault, c'est compliqué.
Oui.
Même pas sûr qu'on le voit en F1, quoi.
Et c'est surtout, c'est que, je pense que c'est pas le plus compliqué pour Senna, qui a des sponsors. C'est plus compliqué, c'est pour Grosjean. Parce que,
oui.
Kimi va falloir le payer. l'équipe a déjà apparemment quelques difficultés financières. S'ils peuvent trouver de l'argent de plus, ça sera bien. Je suis pas sûr que ce soit Grosjean, actuellement, qui soit mieux placé.
Et apparemment, Petrov suffit plus, donc.
Oui. On va avoir Maldonado chez Lotus Renault.
Oh. Attends, c'est pas sûr que son sponsoring soit légal, alors,
Alors, Pérez, alors.
Donc, oui, pour Senna, gros point d'interrogation sur sa présence chez Lotus Renault et sur sa présence en F1.
Ouais.
Vu malheureusement ce qu'il a montré en effet sur la deuxième partie de saison, pas certain qu'on le voit encore très longtemps en F1. Hein. C'est ce qu'on a déjà dit, hein. Le nom ça permet de rentrer mais pas d'y rester.
On passe à l'actu numéro 8.
Ouais.
Et c'est pas véritablement une actu, c'est plus un résultat.
Ah.
Mais c'est pas un résultat de Grand Prix, c'est un résultat d'essai. Puisque c'était essai privé jour 1, les Français au top ce matin.
Ah, les fameux rookie days.
Voilà. Avec Jean-Éric Melon-Vergne, qui était en tête.
Bah bon, déjà, c'est facile d'être premier avec une Red Bull.
Non, je ne suis pas d'accord. Parce que si tu pars sur ce raisonnement-là, tu dis, ouais, qui devait être, c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est facile sur 3 jours. Sur une saison, c'est très dur.
Non, sinon, c'était bien d'avoir autant de Français, même si c'était pas pour des courses.
Ouais, parce qu'il y avait Pic, il y avait Vergne, Bianchi. Il y avait pas Grosjean, parce que Grosjean a déjà disputé des Grands Prix.
Non, oui, voilà.
Et il y avait Berton.
Berton, ouais, pour HRT. Par contre, je suis pas sûr qu'ils étaient tous en même temps.
Non.
Hein
non, bah, les autres pilotes ont protesté. Non, c'est bon, là, les Français, laissez-nous quelques places.
Et c'est vrai qu'il y a eu ces quelques mots derniers. Alors, est-ce qu'on sait le fin mot de l'histoire sur ces fameux mots qu'il aurait dit, mais qu'il aurait pas dit?
Alors, pour refaire un peu, hein, voilà. Il a fait une chronique sur sport.fr, où il revient sur le Grand Prix, enfin sur ses essais et tout, et il déclare dans l'article, voilà, qu'il aurait que dans le contexte, c'est-à-dire que en fait, il a fait beaucoup d'essais, qu'il dit que voilà, j'ai fait beaucoup de simulateurs pendant les essais, j'ai montré que j'avais du retour d'information, etc., que j'étais prêt à faire de la Formule 1, et il finit en disant, j'aurais pas fait pire que Marc Weber. Immédiatement sur le blog de Jean-Louis Moussé qui en a profité en même temps pour négocier son vendredi dans les stands Toro Rosso derrière Jean-Éric Vergne. Jean-Louis Moussé recevait un mail de Renaud Derlot, je crois qu'il y a un proche,
ouais,
un ami
un proche de
Jean-Éric Vergne, qui disait non, les propos ont été déformés, c'est la vieille excuse qui date du 13e siècle, il a jamais dit ça, etc. En même temps, j'ai envie de dire, le journaliste l'a pas non plus inventé. À la limite, il déforme. Il a quand même dit un truc sur Weber.
En plus, tu vois, on parle d'un pilote français avec un journaliste français.
Oui.
Toi, il ne parle pas la même langue.
Non mais alors.
C'est le vieux français.
L'argument qu'a utilisé Derlot et qui moi m'a un petit peu énervé, c'est de dire il s'adresse à Jean-Louis Moncey donc dans son mail et lui dit oui, contrairement à toi qui est un journaliste qui va sur les grands prix qu'on connaît, etc. Là, les journalistes parisiens bon, c'est pas très sérieux. Et puis il a dit voilà, j'étais le seul à enregistrer. Le journaliste n'a pas enregistré la conversation. Moi, je sais pas. Je suis un proche d'un jeune pilote qui est pas encore totalement au fait de la F1, de la communication. Je vois un journaliste dont déjà je sais que c'est un journaliste d'un site internet qui va jamais sur les grands prix, hein, qui n'enregistre pas la conversation. Je me dis quand même, à la fin, je vais le voir, je vais dire, écoute, grand, avant de publier, tu m'envoies un exemplaire que je relise. Voilà. Ce qui m'étonne quand même, c'est que le mec derrière, il est pas contrôlé, il y a rien. C'est, oh, bah, tiens, je suis allé voir sur le site. Oh, mais dis donc, il s'était trompé dans les déclarations. Ah oui. C'est aussi ton boulot de vérifier, quoi. Fais gaffe à ton pilote. Je trouve ça super hypocrite de la part de Derlot de reprocher le manque de professionnalisme à quelqu'un. S'il pensait qu'il était pas professionnel, pourquoi travailler avec lui? Et pourquoi lui faire confiance sur la chronique? Enfin, moi, je sais pas.
Puis en plus, enfin, voilà, comme j'ai dit, c'est en France. C'est pas comme si, bon, il a bien, enfin, il a pas pu le dire 36 000 façons alambiquées, quoi. Il a bien dû comprendre quelque chose, le journaliste.
Une opinion sur les jeunes français, Maël ?
Je trouve que c'est bien qu'il y en ait déjà, qu'il y ait un certain vivier, bah, qu'il y en ait plusieurs, ça donne la possibilité après d'en avoir en F1 et, bah, la plupart ils se débrouillent pas trop mal, donc, on peut espérer en avoir plusieurs. Puis, non, c'est bien. Je trouve ça bien.
Oui. Et puis rappelons que on a quand même Vergne qui s'est battu pour le titre, voilà. Renault 3.5. Et que ce soit Bianchi, Charles Pic ou Grosjean, ils se sont battus pour le titre. Enfin, Grosjean s'est battu pour le titre et les deux autres Français se sont battus pour le titre de vice-champion en GP2.
Ils sont bien classés dans l'ensemble. Et je crois qu'ils font 1, 2 et 4, c'est pas ça?
Non, 1, 3 et 4 peut-être.
Ouais.
Je crois que le deuxième, ça s'appelle Guido van der Garde, entre dans le genre.
Peut-être.
Ouais. Bah, au moins, déjà, on est sûr, il y en aura un.
Et ce qui est super intéressant, je crois qu'on l'avait dit dans la dernière émission, c'est que, alors qu'il y en a qui commencent à arriver en Formule 1, on en voit d'autres pousser derrière, quoi.
Bah, il y a Berton, voilà.
Il y a Berton, il y a, Dinman, qui a fait deux podiums à Abu Dhabi. Au moins, il y a une relève à cela, quoi. Si cela n'arrive pas forcément à percer, ils peuvent au moins ouvrir la voie à ceux qui sont derrière.
On passe à la suivante?
Oui!
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Oui, je vais mettre un drive-thru sur cette actu. C'est une actu qui s'intitulait « Petrov sort du silence et balance sur son équipe ». Et là, j'ai envie de dire, Petrov, t'as un peu fait le con.
Un peu, ouais.
Bon, il a critiqué l'équipe.
En même temps, ce qu'il a...
Le développement, je crois.
Voilà,
le manque de développement.
Alors, apparemment...
Les décisions.
Voilà, ça, c'était une interview qui a été faite tout juste à la fin de la course d'Abu Dhabi par la télévision russe. Et donc, où il critique l'équipe. Et donc derrière, il a publié une lettre ou un communiqué, je sais plus, en disant « Je m'excuse, j'ai dépassé les limites, je ne le referai plus jamais ». Il y a Eric Boullier qui l'a défendu en disant « Non, mais il était fatigué, etc. » Sauf
tu
que...
Tu lui mets un drive-thru parce qu'il assume pas ou parce qu'il a balancé?
Non, je vais mettre un drive-thru parce que, à la limite, que le pilote fatigué balance un truc et que derrière s'excuse. Bon. Mais là où je veux lui mettre un drive-thru, c'est que il a dit dans mon contrat, je n'ai pas le droit de critiquer l'équipe. D'ailleurs, vous verrez cette saison, je n'ai jamais critiqué l'équipe. Et derrière, il le fait. Et après, il s'excuse de l'avoir fait. T'as envie de lui dire, mais pourquoi tu t'excuses? Tu savais que t'étais en train de faire une connerie. Tu l'as dit que t'avais pas le droit de le faire.
En plus, dans ce qu'il a dit, c'est pas fou.
Oui.
Il y a que du vrai dans ce qu'il a dit.
Voilà, c'est le mec qui joue le rebelle en disant, c'est ça le contraste en fait. Le mec qui joue le rebelle en disant, normalement, j'ai pas le droit de critiquer. Mais je critique quand même, parce que voilà, je suis un rebelle, et trois jours il dit après, non, je ne referai plus jamais, promis, je me suis trompé, je me suis égaré sur le droit chemin.
Tu veux m'en braquer pour l'an prochain?
Voilà, donc c'était un peu pathétique, comme globalement la communication autour d'Otis Renault Grand Prix, hein, depuis 15 jours.
Oh, je ne dirais pas que depuis 15 jours.
Je dois dire que j'ai hésité à faire un autre drive qui concernait pas l'Otis Renault Grand Prix, mais un peu les fans. J'ai poussé un peu un coup de gueule sur Fan F1 aujourd'hui. Il y en a un peu marre, sincèrement, les mecs, si vous nous écoutez, lâchez-leur un peu la grappe à l'Otis Renault, quoi. On sait très bien qu'ils ont fait une année pathétique. On est les premiers à le dire. Maintenant, si vous êtes encore sur le cas de Nick Heidfeld à en discuter au mois de novembre, alors qu'il s'est fait virer au mois d'août, voilà, à un moment donné, faut commencer à décoller et passer à autre chose.
Oui, ils ont fait une saison pourrie. Oui, ils se comportent n'importe comment. Oui, ils ont une communication de merde.
Mais ils ont Kimi Räikkönen, donc maintenant, Kimi les soutient.
Ouais, bah, on verra. Passe à la suite.
Et c'est une actu qui ne parle pas de Petrov.
Ah
non, mais qui parle de Rose Brown. Ah non, qui parle, non, je me pose une connerie. Qui parle de Massa. Massa qui est farceur. C'est retour au pays, je me mets à faire des blagues. Et qui déclare, si on me le demande, je m'effacerai devant Fernando. Non, c'est déjà effacé. Donc, c'est un peu ce qu'on comprend depuis le début.
En plus, il dit ça comme si c'était nouveau, quoi.
Oui, et puis ça, c'est que c'est... Enfin, je sais pas. Sincèrement, j'ai pas compris pourquoi il a dit ça. T'as envie de lui dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te prend, Felipe?
Son esprit n'était pas en 2011, il était en 2009.
Ouais.
Il présente ça comme nouveau, mais non, Felipe, non. On se souvient tous de ces phrases que je ne dirais pas, parce que de toute façon, on les connaît toutes par cœur depuis un an et demi maintenant.
Non, puis surtout, c'est le côté, Fernando aurait besoin que Felipe se passe.
Il reste en 2010.
Mais en fait, apparemment, il y a un truc, je sais pas quand, mais il y a un truc qui a lâché. je saurais pas dire quand, mais il y a un truc qui est parti.
Ouais.
Je trouve qu'il manque de ressort. Je trouve que...
T'es en forme ce soir.
Et on passe à la cinquième. Et donc la cinquième qui parle bien de Rose Brown.
Ah.
Qui veut continuer avec Schumacher en 2013.
Ah, donc lui, il veut.
Oui.
Ah.
Il est pas là, c'est bien.
France.
J'en aurais marre au bout de...
Écoute, ah, il fait un bon deuxième pilote.
Oh non, 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 alors attends, tu dis ça sur Choumi, moi je dis ça sur Kimi, attention. Méfie-toi,
je
dis.
Mais moi je trouve, contrairement à beaucoup, je trouve qu'il a plutôt réussi son retour. Parce qu'en même temps, je m'attendais pas forcément à si... Je m'attendais pas à retrouver le Choumi de Ferrari, quoi. Je peux pas m'empêcher de me dire, ouais, quand même, il y a beaucoup de pilotes qui aimeraient avoir les mêmes résultats que lui. Ou que, ouais, 2013, ça va dépendre de lui. De toute façon, tout ça, il va y penser que l'an prochain, hein, pas avant.
Oui, bah oui.
Après, plus loin, je pense pas, quand même.
Bah, cette année, ça a été, je pense, un peu mieux que l'année dernière. Il fait des résultats, bah, pas mauvais, mais pas excellents non plus, quoi. Il est pas dans la moyenne, mais peut-être un peu au-dessus, derrière les top teams. Mmh. Donc, il fait mieux que les petites équipes, mais pas aussi bien que les grosses équipes. Voilà.
C'était un bon commentaire, Maëlle. Merci Maës. C'était clair. Tu vois, Shinji, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça que j'aimerais que tu fasses plus souvent. Tu vois.
Il y a que toi qu'on comprend jamais.
Mais arrête Shinji. T'as sûr, je suis d'accord de Kim. Ah non, faut pas ajouter ça. Il va vouloir qu'on en parle. Tiens, justement, en parlant de Kimi Raikkonen.
Oui.
Passons à la quatrième actu qui ne parle pas de Kimi. Puisque c'est la chronique d'Axel, la chronique hors piste de la semaine dernière, qui s'intitulait « Cette nuit, j'ai rêvé que Williams revenait ». Oh. Nos chroniqueurs en cette fin de saison sont partis dans cet élan poétique. Mmh. Axel qui nous confie ses rêves et oui. Benoît qui se laisse aller à imaginer la semaine de Rubens Barrichello.
Excellent, faut le dire.
Oui. Ouais, non, c'est très bonne chronique. Ouais. Très marrante. Un ton décalé, elle était pas mal.
Et donc, celle d'Axel sur le rêve de Williams, voilà, de revoir Williams un jour briller, notamment avec, je crois qu'à un moment donné, il dit avec Kimi Raikkonen, et puis ça fera, puis Frank Williams se mettra à imaginer le retour de Michael Schumacher pour effacer le vieux souvenir de 94, voilà. Moi, j'aime bien quand ça part dans des délires, voilà. J'aurais aimé juste qu'il s'arrête au moment où il dit, puis je me suis réveillé. Voilà. J'ai regardé la feuille des temps et j'ai vu que les Williams étaient en dernière ligne. Voilà. Journée de merde.
Bah là, c'est sûr que sans Kimi, le choix de pilote, va être moins de haut niveau, hein. Enfin, a priori, si c'est pas Kimi, maintenant, ce serait plutôt Sutil qui tiendrait la corde pour Williams.
Bah oui. Après, ça dépend aussi de la validité du deuxième baquet. Enfin, voilà, ça dépendra
ça
aussi. Parce que maintenant, le baquet de Maldonado est plus aussi sûr qu'avant.
Oui.
Puis ça, on sait jamais. Hein, ça peut être un Senna.
Grosjean.
Petrov, pourquoi pas. Petrov, Maldonado chez Williams. Ah, la Dream Team.
Oh là là.
À eux seuls, ils peuvent s'acheter HRT. Et donc toi, Maël, t'as une équipe favorite ou t'es un peu comme Shinji, c'est le pilote qui t'enthousiasme avant tout.
Ah, le pilote influence beaucoup, donc en ce moment c'est Ferrari.
Ah, c'est bien.
Ah bah oui.
T'es pas tombé sur la meilleure période, mais bon. D'ailleurs, t'as découvert la Formule 1. Ça, c'est super intéressant parce que pour nous, t'es une extraterrestre, Maël.
D'accord.
T'es une fille qui aime la Formule 1. Pour de nombreux garçons qui écoutent cette émission, tu es entre le fantasme absolu de la femme idéale.
Voilà.
Et l'extraterrestre, pourquoi elle et pas ma copine, quoi. Parce qu'on a tous connu ces dimanches où ta copine te dit « Ah, encore des bagnoles !» Non, c'est pas des bagnoles, c'est de la Formule 1, chérie. Tu vois? Donc alors comment t'as découvert la Formule 1, comment...
Bah, mais mon grand-père regardait, donc naturellement j'ai commencé à regarder avec lui au début. Il me rappelle la période de Schumacher 2004. Je regardais les départs et les arrivées, puis au fur et à mesure, je me suis pris au jeu, puis j'ai commencé à regarder tous les Grands Prix.
C'est bien, c'est que déjà à l'époque, t'avais compris un petit peu comment fonctionnaient les courses.
C'est clair. Donc, le début, la fin, le reste, c'est pas grave, ça sert à rien.
Puis ouais, au fur et à mesure, j'ai commencé à tout regarder, puis voilà, maintenant, je regarde tout le temps, je casse les pieds de tout le monde pour regarder ça le dimanche.
C'est son mec qui gueule maintenant. Oh, mais c'est quoi ce truc de bagnole là? Je veux voir le patinage artistique, Maëlle.
Mais Brian plus mes parents. Plus mes parents, je vais plus subir à mes parents.
Ce qu'il faut leur dire pour la digestion du gigot, c'est nickel.
Mais sincèrement, Maëlle, dis-nous, toi qui es du côté féminin, est-ce que tu es seule? Est-ce que faut que tu rassures plein de garçons? Est-ce que vous êtes plusieurs? Est-ce qu'il y a une fédération des fans de Formule 1 féminine?
Je sais que au lycée, j'ai réussi à convertir quelques copines, du coup, on se tape des fois des bons délires à propos de ça. On est plusieurs, ouais. On est deux, trois à se taper des bons délires sur les Grands Prix.
Faut faire un SAV féminin. Non, on vous laisse prendre l'antenne l'année prochaine, vous prenez un grand prix, on vous file l'émission et vous débrouillez.
Non, si on peut avoir des discussions fort intéressantes entre filles sur la formule.
Alors c'est quoi une discussion de filles sur la F1? Genre, punaison Hugo Boss, est-ce que vous aimez? Le gros cliché du mec matcheux.
Ouais, il peut y avoir des discussions fort sérieuses comme des discussions sur un grand n'importe quoi.
Oui, discussion fille quoi.
Oui, ouais. comme par exemple des discussions sur un grand n'importe quoi avec ma meilleure amie, on a pensé que pour le podium, il pourrait pimenter le podium, je sais pas, en faisant striptease.
Non, c'est bizarre, nous ça nous intéresse pas.
Voilà, c'est bizarre ça.
Donc ça peut être un type de question de discussion en grand n'importe quoi, comme plus sérieuse, analyser Grand Prix, savoir pourquoi un tel a gagné ou comment il aurait pu faire et tout, voilà.
C'est incroyable, je te dis.
Ouais.
Je découvre de nouveaux horizons. Ça existe. Ouais. Les femmes fans de Formule 1 ne sont pas des licornes. Peut en voir en vrai. C'est fantastique. On passe à l'actu suivante?
Oui.
Oh, je sais pas, elle est pas vraiment importante, hein.
Ah, c'est enfin.
Ce serait pas en 4
donc,
lettres.
Alors, c'est qui vient connaître avec le tournoi Grand Prix en 2012. On passe à la 3?
Ah oui.
Donc la 3,
Non, on passe à la 4.
Non, mais
je sens que la 3 est intéressante.
La 3 est très bien, ça parle de Kubica et tout, et la 3.
Ah oh, bah, parfait.
Voilà.
Oui, mais on parle.
C'est très intéressant.
Donc, alors, mais qu'est-ce que tu penses de Kubica?
On la 4.
La saison a pas forcément été, étincelante.
Oui. Oui, mais on parle quand même.
Un peu absent. Je croyais qu'il a été un peu absent.
Voilà, alors le 2, on peut aussi l'oublier, hein, ça sert à rien.
Parle de la 4.
La 4, tu veux dire combien fait le 2 en 2012?
Oui.
Mais non, mais elle est pas intéressante, ça, la Shinji, ça parle de.
Tout le monde le sait. Ça intéresse qui?
Bon, vas-y, fais-toi plaisir. C'est Kimi Räikkönen qui sera avec Lotus Renault Grand Prix en 2012.
Bah déjà, c'est quand même une surprise, parce que c'est vrai qu'au début, hein, quand c'était la période de discussion Williams, quand on a commencé à avoir les rumeurs, bon, fallait rester prudent, parce qu'on s'était bon très bien que bon, la F1, voilà, entre les rumeurs et la réalité, il va y avoir un grand écart. Et je dois avouer que là où j'ai commencé à y croire, hein, lorsque Toto Wolff a reconnu ouais qu'il y avait des discussions avec Kimi, là, ça devenait vraiment, vraiment sérieux. Et puis, est arrivé en fait ce qu'on craignait dès le départ, hein, puisque bien évidemment, si ça a capoté, c'est pourquoi? C'est à cause du pognon, hein.
Non, c'est pas le genre de Kimi.
Oh, à peine.
Ben c'est, non, c'est pas le genre des Robert Sud.
Oui, ni de Frank Williams.
Oui.
Ah, c'est pas le genre de Williams de céder 20% de son équipe.
C'est vrai.
Demandez à Adrian Newey. Même choix.
Oui, mais en même temps, c'est du point de vue de Frank Williams, il aurait peut-être mieux valu justement céder des parts de l'écurie Räikkönen que de lui payer un salaire. Parce que tu lui payes un salaire, t'es pas sûr de le garder. Alors que là, tu vois quand même mal le copropriétaire de Williams se barrer chez Mercedes ou chez Red Bull en 2013, parce que c'est un petit peu ce que tout le monde pense depuis que les rumeurs sont sorties, c'est que voilà, il va faire une saison pour se relancer,
oui, voilà,
pour ensuite mieux rebondir dans un top team, parce que c'est vrai que actuellement, certainement ni Williams ni Lotus Renault Grand Prix peuvent lui permettre de se battre pour le titre. Donc
et donc bon bah on sait, hein, comme vous disiez déjà, Newey était parti parce qu'il voulait des parts dans l'équipe, mais que Frank Williams ne veut pas céder de parts dans l'équipe. On se demande pourquoi il a mis la société en bourse. Et donc bon, forcément à partir du moment où ça a capoté, hein, qu'on a appris ça quoi il y a une semaine à peu près, hein, une semaine, 10 jours, tout de suite on a eu oui tiens, il pourrait peut-être rebondir chez Lotus Renault. Mais du coup, enfin moi personnellement, je croyais pas trop.
Mais
parce
le truc c'est que ça aussi était passé un peu sous silence par les problèmes qu'il y a eu autour. Je pense que les deux sont un peu liés, les problèmes autour de Kubica. Je pense que ça a aussi précipité l'arrivée de Räikkönen.
Voir ça concrétiser comme ça d'un coup aujourd'hui, c'est pas même pour moi, alors que ça avait été annoncé, c'est surprenant quoi.
Il y a une nouvelle hier qui est sortie, c'est un entretien de Éric Boullier qui revenait justement sur le cas Robert Kubica en disant parce qu'il y a eu des rumeurs apparemment au Brésil comme quoi Kubica aurait un pré-contrat avec Ferrari, rumeurs auxquelles je ne crois pas une seule seconde, mais bon. Donc Boullier disait non mais nous on va pas lui fournir une voiture et lui faire des essais si c'est pour qu'il se barre en 2013 d'ailleurs quoi. Il est notamment revenu sur le cas de Barrichello parce qu'il a reconnu que Barrichello l'avait contacté pour un baquet, et qu'il avait dit à Barrichello, écoute Rubens, t'es pas au sommet de notre liste. Et donc moi, j'ai réservé, parce qu'on réserve les articles pour les écoles, j'ai réservé cet article hier après l'après-midi. Puis finalement, j'ai pas eu le temps de le faire, donc je l'ai annulé. Et hier soir, personne n'avait encore pris. Donc je me suis dit, je vais le prendre. Ça, il sera publié demain. Mmh. Et je commence à faire l'article, je fais les discussions, puis je me couche en disant, je vais le finir demain matin. Et là, j'arrive ce matin, j'allume l'ordinateur, Kimia Räikkönen arrive. Bon, bah voilà, l'article, on n'en parlera pas.
Voilà.
Donc, contrat de 2 ans.
Ouais.
Et donc, forcément, ça pose plein de questions. Ça pose des questions sur le niveau qu'il va avoir. Lui, il dit qu'il est motivé. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ces 2 ans de coupure, qui sont pas des 2 ans non plus de coupure sans activité sportive, hein. Mais loin de là.
C'est pas le genre de Kimi de se relâcher.
C'est pas le genre. Peut-être même que ça va peut-être l'améliorer, hein, ses expériences en WRC, en NASCAR, son roulage avec la 908. Pourquoi pas
bah, son, expérience bah, en, son expérience en NASCAR l'a préparé aux attaques de Lewis Hamilton.
Les questions aussi sur l'équipe, parce que c'est vrai, hein, après cette année pas terrible, hein, on va pas revenir encore dessus. Bon, après, est-ce que c'est mieux qu'un baquet Williams? Je pense quand même, même si bon, Williams, il y aura le moteur Renault et tout ça, mais bon, en l'état actuel des choses, ça reste mieux qu'un baquet Williams. Là après, où finalement les questions qui se posent le plus, c'est finalement pas tant sur Kimi, mais sur qui va être avec lui. Le problème souvent avec les transferts, hein, c'est qu'au final, il y a toujours un dindon de la farce. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'il va y en avoir plusieurs.
Oui.
Hein, parce que ce baquet, bon, bah on l'a dit, Petrov, on sait pas, Senna, on sait pas, Grosjean, c'est quand même lui qu'on voyait justement dans ce baquet, que tout le monde voyait dans ce baquet.
On a même Bouillé à passer sa saison à lire.
Oui, voilà.
Mais c'est pour ça vraiment que je pense que toute l'embrouille autour de parce que c'est quand même très lié quoi, dire que.
Et la question voilà c'est Robert Kubica, est-ce qu'il veut un duo Kimi Robert?
Mais
en effet, il y a un truc qui s'est cassé.
Je pense sincèrement que le fait d'officialiser Kimi Räikkönen aujourd'hui, c'est clairement enterrer l'avenir de Robert Kubica chez Lotus Renault Grand Prix. Il y a une telle concordance des faits que aujourd'hui, on comprend peut-être un peu mieux aussi les commentaires de Morelli la semaine dernière, qui interviennent pile poil au moment où commence à apparaître une rumeur sur Kimi Räikkönen.
Donc, et je vais même te dire, à l'origine, mon drive c'était ça, c'était contre Morelli parce que c'est vrai quand il dit oui que comme tu l'as dit pour Verne, c'est-à-dire que par la position de Morelli, le communiqué de presse il l'a vu, il l'a très bien compris parce que c'est son job. Hein. Faut arrêter avec les questions de traduction et tout ça. Hein. Et moi je voulais justement mettre ce drive-through là-dessus hein, contre Morelli. Parce que c'est vrai que dans ce qu'il a dit à la Gazzetta, donc il a parlé du fait que déjà que d'après lui Kubica pourrait commencer la saison, alors que le communiqué justement disait que de toute façon il raterait le début de l'année 2012.
Non mais c'est ça surtout, c'est que il joue sur les mots parce qu'il arrive quand même à dire que
oui
non mais en fait Robert il a dit qu'il serait pas là pour les essais et derrière il t'explique quand même que tout le processus, que bon bah là on va lui débloquer, on va lui retirer la telle du coude etc.
Oui.
Qu'il va reprendre un petit peu en janvier, qu'après il va recommencer et que bon bah peut-être qu'effectivement il va rater les premières courses. Oui bah donc Lotus Renault Grand Prix a bien compris le communiqué.
Bon. A bien compris, oui.
Mais le problème c'est ce que dit Boulier, c'est que eux Boulier pense que il y a une mauvaise traduction. Et c'est d'ailleurs le cas, je dois le dire sur Fan F1, on a mal interprété la dépêche qu'on a reçue en disant qu'il serait absent en 2012. Il sera absent au début. Et ce que dit Boulier, c'est que dans les pays de l'Est, ça aurait notamment été traduit et compris comme absent en 2012 et que Morelli lui se serait basé là-dessus. Mais bon, quand c'est comme ça, tu vas d'abord voir l'équipe en discuter et demander vérification plutôt que de sortir ça dans la Gazzetta sans même consulter l'équipe. Enfin, moi, je sais pas si j'ai un problème avec toi, Cindy, je t'en parle d'abord.
Voilà. Et là où justement j'avais l'intention de faire le drive-through, c'est drôle parce que je vous parle d'un drive-through que je voulais mettre que je ne mets pas. c'était justement dans la Gazzetta. Je trouvais qu'il s'attardait énormément justement sur l'aspect contractuel, sur le fait que justement Robert Kubica n'aurait pas de contrat après le 31 décembre. Alors c'est bizarre parce qu'apparemment on a vu des nouvelles de prolongation il y a un an. Et d'ailleurs, le communiqué de Renault dit, va pas forcément en contradiction avec ça. Parce que si je me souviens bien, il parle du fait que Robert Kubica fait toujours partie de la famille et qu'il y a des négociations en cours pour ça. Donc peut-être en effet, il confirme qu'il y avait des négociations pour la prolongation de contrat de Robert Kubica. Et là en fait, où j'en voulais un peu à Morelli, c'était dans son interview à la Gazzetta, il parle du fait que bah le contrat se termine au 31 décembre, que après bah si c'est pas signé avec Lotus, il y a pas de souci, on ira voir ailleurs. Et c'est là où à l'origine je voulais mettre vraiment le sens de mon drive-thru, c'est que je trouvais qu'en disant ces choses-là, est-ce qu'il agissait vraiment pour le bien de Robert? Parce que c'est quand même son job.
Ah, hein. Et puis même par rapport, enfin, c'est dire ça par rapport à une équipe qui a quand même attendu Robert comme ça, enfin.
Ils l'ont attendu, ils l'ont quand même officiellement soutenu. Sur le principe, ils étaient quand même d'accord pour le prolonger sans aucun problème, même s'il y a des négociations. Alors peut-être aussi qu'ils ont demandé peut-être des garanties, puisque pour l'instant on sait pas trop. Et là où j'en voulais avec Morelli, c'est que je me disais, mais attends, Robert, s'il signe pas avec Lotus Renault aujourd'hui, il signe avec personne. Il y a aucune équipe, quelle que soit la sympathie qu'on peut avoir avec Robert Kubica, qui signerait Robert Kubica. C'est pas possible, puisqu'on sait pas. Donc ça, c'était le drive-thru que je voulais faire. Mais est arrivé ce qui est arrivé aujourd'hui. Et forcément, bah, comme tu l'as dit, est-ce que tout ça, est-ce qu'il faut pas le voir dans un autre angle? Parce que justement, il était peut-être au courant, et peut-être qu'en effet, le fait qu'il signe Raikkonen pour 2 ans, donc c'est pas une pige, c'est peut-être parce que, en effet, les choses se sont brouillées, ça remet tout en cause, forcément. Et pour le coup, bah, là où je pourrais finalement quand même mettre le drive-thru, c'est qu'au final, bah, c'est Kubica qui risque de trinquer.
Maëlle, un commentaire? Ouais. Elle nous écoute plus, Maëlle. T'as perdu Maëlle, tu te rends compte?
Mais non, mais...
Pardon, oui, non, t'as perdu Maëlle, j'ai dit.
Non, mais... Je te pardonne. Aujourd'hui, je te pardonne.
Ah, Maëlle. On t'avait perdu.
Non, non, j'étais avec mes parents.
Oui, non, non, mais dis-le que c'est Suzy qui t'a ennuyé.
Mais non.
Non, 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 pas du tout. C'est fort intéressant.
Alors vas-y, dis-nous ce qu'il a dit.
Oh non, attends, j'ai déjà mis trop de temps, moi.
Il revenait sur la situation entre Kubica et Raikkonen, l'engagement, et Morelli, et son drive-thru, mais qu'il a pas fait, qu'il devait faire et qu'il a pas fait finalement.
Ah, elle a tout subi, trop forte.
Voilà, hein. Tiens, voilà.
Hein. Alors que moi, j'ai écouté, je suis même pas capable de récupérer. Comment tu fais, Maëlle?
C'est les cours, hein. Des fois, c'est chiant, mais il faut écouter.
T'as vu, je dis, elle dit que c'est chiant.
Des fois, pas tout le temps, des fois.
Donc un commentaire, Maëlle, je sais pas, sur les deux, hein, parce que l'actu suivante, enfin les deux actus suivantes, même les trois actus suivantes, c'est en troisième position, Kubica ne sera pas au départ de la saison 2012. Ensuite, c'était la deuxième actu, c'était deux actus en fait qui se suivaient, mais qui avaient le même sujet. C'était Raikkonen voudrait départ dans Williams, et la chronique qui revenait justement sur les grands retours qui s'intitulait Une irrésistible envie. Voilà, sur...
Par rapport à Raikkonen, je pense que ça peut être un bon point pour Lotus Renault d'avoir un pilote avec plus d'expérience comparé à ceux qu'ils ont. Peut-être booster l'équipe et voilà pour un développement peut-être plus concret et plus poussé que suite cette année. Peut-être les rendus sont peut-être meilleurs. Concernant Kubica, ça c'est un sujet vaste quand même parce que c'était un peu complexe, je trouve, entre les démentis, les publications des équipes et tout. Je trouve que ça n'a pas été vraiment coordonné. Ils auraient dû avoir plus de communication entre eux, je pense. Manque de communication en interne.
Mais c'est ça qui est le plus criant, c'est qu'on vraiment on a l'impression qu'on a Lotus Renault Grand Prix qui a attendu ces derniers mois sur un pilote avec lequel finalement il ne parle que très peu.
Qu'avec l'agent ou je sais pas, il y a peut-être. Faudrait que parler directement peut-être au pilote ou s'il manque, je pense, manque de communication. Peut-être que l'équipe est jeune et du coup, elle n'a pas encore tout à fait ses repères concernant la communication, le management et tout. Peut-être, ouais, vu que l'équipe se reconstruit et tout, c'est peut-être manque d'expérience.
Puis c'est aussi, il y a une partie hypocrite, je trouve, dans les critiques actuelles. Faut quand même pas oublier, c'est que ce sont des gens qu'on a voués aux hégémonies en 2010 en disant, ils ont redressé la barre et tout. Ce qu'ils ont fait avec Renault, c'est fantastique. Je trouve que c'est un peu injuste le procès qu'on lui fait aujourd'hui.
Mais les gens regardent peut-être pas assez en arrière, ils zappent les choses d'avant, ils font sur les choses qu'ils voient tout de suite. Je pense qu'ils se réfèrent pas assez aux choses passées, ce qu'ils ont pu dire et tout. Des fois,
oui, et puis je pense aussi qu'il y a le côté bouc émissaire. Je pense qu'aujourd'hui, Boullier, il prend pour toute la saison. Alors après, c'est vrai qu'en termes de communication, c'est de toute façon déjà dès le départ, dès le conflit Lotus, dès le départ l'année dernière, ça se sentait que cette équipe en communication, il y avait un problème. Voilà, pour que cette affaire, elle dure depuis un an, il est vraiment dans un problème de communication. Et la Boullier, il fait partie d'une équipe, quoi. Et c'est pas lui qui gère de main de maître toute l'équipe.
Ouais, il a des gens qui les aident et donc il est pas le seul à prendre les décisions, quoi. C'est une équipe, quoi. Comme le dit le mot, c'est une équipe. Voilà. Ensemble de personnes à prendre les décisions.
Apparemment, ce qui pourrait le plus menacer actuellement, c'est si Lotus se décide à racheter des parts de l'équipe à Gini.
Ouais.
Parce que c'est quand même l'homme de Gini Capital, hein, Boulier, donc...
Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour l'équipe de rechanger alors que oui. Elle a du mal à trouver ses bases et tout.
Oui, et puis enfin, il a quand même eu une saison super difficile, Boulier... Pour un, quand même quelqu'un qui est arrivé de GP2, je crois. Il s'est quand même retrouvé assez rapidement à devoir gérer une équipe, déjà la relevée de l'après Briator, de l'après Crashgate de Singapour, etc. Et ensuite confronté direct, alors que c'était quand même sa première saison véritable. La deuxième, c'est toujours la première véritable où ce sont tes méthodes, c'est ton travail gâché par le départ de, enfin, l'accident de Robert Kubica et un concept technique qu'il faut pas l'oublier était très bien au début, que tout le monde
prometteur
et tout. Il faut pas oublier, c'est que il y a eu tous les atermoiements dont a été victime Lotus Renault Grand Prix, mais qui visait les échappements soufflés de Red Bull. Mais la première victime, ça a été Lotus Renault Grand Prix. Ils ont pas eu une saison difficile, donc c'est pour ça que moi ça m'énerve quand je lis les critiques incessantes sur LRGP. Foutez-leur la paix, on les jugera sur 2010. Voilà, si 2010 c'est encore catastrophique, là faudra se poser
2012.
Des questions.
Non, 2012.
Je sais pas, je vais être en 2009, Finzi. Si Raikkonen, ça me ramène à sa meilleure saison. Je peux
Oh.
Mais sinon, alors sur Raikkonen, moi ce que je trouve super intéressant, c'est que c'est quand même un pilote qui depuis 2 ans nous balade, hein, en nous disant ouais la Formule 1, voilà, j'aimais pas la pression des médias, etc. Et ce qui est super dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui on sent un pilote qui revient juste parce que ça lui manque. Voilà.
Il a envie, ouais.
Voilà, j'ai envie de revenir. Je me suis rendu compte que même si j'aimais bien faire le reste, le roue contre roue, il y a qu'en Formule 1 que je peux l'avoir. Je suis fait pour la Formule 1. Et on sent un pilote, c'est si moi me rend optimiste pour Raikkonen. On sent un pilote qui a enfin accepté que la F1 avait ses contraintes et qui a peut-être enfin accepté de faire avec les contraintes de la F1.
En même temps, il a peut-être pu négocier un contrat assez cool avec Lotus Renault.
Oui.
Sachant que, voilà, s'ils le prennent, faut le prendre aussi comme il est. Voilà, tu sais que c'est pas le pilote qui va être le plus motivé, hein, pour les journées commerciales.
On passe à la première actu, la plus lue,
oui.
Celle qui a cartonné.
Ouais.
Qui dit Brésil dit...
plein de choses, en fait, ouais. C'est ça le truc.
Ouais. Les pilotes, le circuit.
Bah, ça vous trouvez, qui dit Brésil dit...
Massa.
Rubens.
Massa, Rubens, voilà. C'est Felipe Massa qui dit, alors Rubens, tu devrais arrêter la F1.
Oui.
Genre, allez papy, allez raccroche, allez.
Il y a aussi eu Weber qui a fait un très joli éloge de la carrière de Barrichello.
Moi je suis triste et en même temps je trouve ça pathétique. Là il avait une belle opportunité de prendre son départ, je me suis dit ça aurait été bien avant la course qu'ils disent voilà écoutez bon c'est ma dernière saison. Sincèrement ça sent le sapin pour lui depuis plusieurs semaines, mais là ça devient évident. Ça aurait été bien qu'ils disent avant voilà écoutez je prends ma retraite, comme a dit Felipe à un moment donné. Felipe lui a dit après la course, non c'est comment ça s'appelle, dans la chronique de Ben où il fait dire à Felipe après quand tout le monde sera parti on ira sur le podium. Il aurait eu le droit au podium quoi devant chez lui, il aurait pu faire la fête avec le public.
Tu sais quoi, vu que je donne pas mon drive froid à Morelli, je vais le donner, alors peut-être pas à Barry, je vais le donner aux deux, à Williams et Barrichello. Parce que du côté de Barrichello, c'est vrai que c'est pathétique. Qu'à son âge, être obligé de chercher des sponsors, tu te rends compte, à son âge, alors qu'il y a plein de jeunes pilotes qui triment comme des dindes pour trouver des sponsors pour rentrer en F1. Là encore, il a dit aujourd'hui, je veux un petit contrat. Il est prêt à aller chez HRT, hein.
Oui, mais il y a une voiture qui gagne.
Franchement, dans sa situation actuelle, ouais, enfin, des voitures qui gagnent, il y en a plus beaucoup moins qui ont des baquets de libre. Hein.
Attends, mais parce que...
Voire pas du tout.
Il a fait une interview lundi matin, je crois, où il a montré une photo, parce que les gens lui ont dit, bon, première question, bon alors, Rubens, la retraite. Et Rubens, il a dit, non, mais attendez, moi en 2012, je suis déjà prêt, regardez, je peux même vous montrer mon nouveau casque. Et en fait, c'est là où c'est pathétique, c'est misérable, quoi. Tu te dis, c'est là où la fiction rejoint la réalité, la chronique de Ben rejoint Sad. Il montre une photo un dessin qu'a fait son fils du casque.
Et dans mon drive rouge, je mettrais aussi un peu Williams parce que ils ont rien officialisé. C'est-à-dire que à la limite, oui. Barrichello, il est quand même en train d'essayer quand même de sauver sa place chez Williams.
Oui, c'est vrai.
Il y a toujours cette possibilité. Et je trouve que bon, on peut considérer que Barrichello, bon.
Mais il est en fin de contrat, donc techniquement, s'ils officialisent quelque chose, c'est un renouvellement, c'est pas la fin de contrat. On n'officialise jamais une fin de contrat.
Oui, mais il pourrait officialiser un pilote.
Voilà, je trouve que bon, même si on considère que voilà Barrichello, voilà, faut qu'il prenne sa retraite, il méritait quand même qu'on lui dise avant.
Ouais.
Hein,
parce que ça se trouve on lui a dit.
Surtout,
Nous, ça fait 5 ans qu'on lui dit Rebels.
C'est le Grand Prix du Brésil, quoi. Donc, je pense que ce qu'on aurait aimé voir, c'est de se dire, voilà, c'est la dernière course de Rubens. Ça va être la fête. Parce que, voilà, c'est l'homme aux 300 Grands Prix, quoi. Et il n'y a pas eu ça. Il n'y a eu aucune officialisation. Donc, Rubens, il est en train de courir derrière les sponsors pour essayer de sauver son baquet chez Williams ou aller je ne sais où.
C'est principalement sa responsabilité aussi.
Ah, c'est les deux. Voilà, c'est ça. Voilà, je mets les deux. C'est pour ça que je mets les deux. C'est triste. Alors, on devrait être triste de le voir partir, mais c'est triste de le voir s'accrocher.
Oui.
Bref, c'est triste. Et puis, les gens se souviendront du fait qu'il a essayé de s'accrocher pour rester et oublieront peut-être les bonnes choses qu'il a fait dans sa carrière, quoi. Je pense. Mmh. S'attachera plus au fait qu'il a à tout prix essayé de rester en Formule 1 et puis on oubliera peut-être certains faits marquants de sa carrière.
Ouais. Voilà, je vous le dis, hein, il dit oui, je veux une voiture qui gagne. Là, franchement, si HRT l'appelle, il fonce.
Eh bien, c'est tout pour les actus. On peut passer aux citations si vous voulez.
Oui, les citations. Alors, attends, je ressorte ma citation.
Bon, bah, elle, en attendant, si t'en as une.
J'en ai plusieurs.
T'en as plusieurs, mais ils sont fous, les invités.
Chaque fois,
ils en
ont plusieurs. Qu'est-ce
qu'ils ont ? Nous, c'est sans filet.
Bon, allez, je vais me lancer. Phrase classique hein, qu'on entend parfois en F1. Disons qu'il devra faire ses preuves la saison prochaine. Chose typique qu'on pourrait dire de Charles Pic.
Oui.
Chose typique qu'on pourrait dire de même de Kimi. Hein,
oui, c'est vrai.
Chose quand même moins typique quand on parle de Felipe Massa. Et en même temps, Cathy Montezemolo qui le dit.
Bizarrement, quand t'as dit ta citation, j'ai pensé à Massa.
Voilà. Rappelons-le, hein, donc il a le soutien de Montezemolo pour l'an prochain.
Et d'Alonso.
Oui, pour l'an prochain.
C'est une fin de saison où tout le monde s'aime.
Oui.
Alonso qui aime Hamilton, Alonso qui aime Massa, Massa et Hamilton qui s'aiment à nouveau.
Quand même, on conseillera à Philippe de ne pas faire comme Rubens, hein, de préparer les de commencer à préparer les choses dès maintenant. Peut-être pas pour quitter la F1, mais voilà, quitter Maranello, par contre, ouais. Commence à regarder un peu, à prospecter pour 2013, quand même. Voilà, c'était ma citation.
Maëlle, tu as une citation?
Parce que Oui, la mienne, c'est plutôt dans l'humour. J'ai choisi ce qui a été marrant. Du coup, c'est ce que je veux de la part du Père Noël avec Philippe Pignot. Je vais écrire et lui demander une voiture fantastique du début à la fin de la saison 2012.
Il demande ça au Père Noël, mais t'imagines ce qu'a demandé Fernando?
Non, Fernando, il demande directement le traîneau du Père Noël, parce que bon, la vitesse où il est censé aller, c'est déjà rouge.
Non, mais j'ai trouvé assez comique, quand même, de s'en remettre au Père Noël pour avoir une voiture fantastique.
T'en avais d'autres, Maëlle? T'as une fille, t'as le droit, si tu veux.
J'ai le droit.
Ouais.
Ouais, j'en avais une sur Kimi Raikkonen, mais bon, vu que le sujet était abordé, on peut zapper. J'en avais une aussi sur Kubica, mais du coup, je vais prendre... celle que j'avais. C'était émouvant quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, car je savais que je m'étais donné à fond. C'est une citation de Sébastien Vettel à propos du tour de qualification et du fait qu'il a battu le record de Mansell. Donc, je la trouvais jolie comme citation. Comme quoi, il se donne à fond tout le temps, même au dernier Grand Prix, quoi.
Ouais.
Pour le moment, 15 sur 19, alors que Mansell, c'était 14.
Non, j'ai dit, me lance pas.
Passe tes bas.
Ne lance pas.
Mais non, mais c'est...
Oui, d'accord.
C'est important de le
mais
dire.
Mais ne comparons pas les époques.
Mais justement, c'est pour ça que je précise, c'est pour ça que pour montrer que c'est différent.
Oui, mais c'est indirectement, il y a derrière le sens que ce qu'a fait, c'est ce qui m'énerve dans ce truc-là, c'est que derrière cette comparaison, elle laisse quand même à sous-entendre que ce qu'a fait Vettel est moins bien que, voilà, ça fait une hiérarchie. Il y a pas besoin de faire hiérarchie.
Ah, c'est pas ce que je pensais.
Non, mais c'est différent. Je suis d'accord, mais derrière il y a quand même ça, quoi. On dit ah oui, il l'a fait sur 19 alors que Mansell l'a fait sur 16. Donc c'est automatiquement, ça, on rappelle le ratio, que le ratio de Mansell est meilleur et compagnie. Si on va dans la comparaison, c'est ce qui m'a poussé à faire un article d'ailleurs là-dessus. Si on va dans la comparaison, faut y aller à fond, ou alors faut pas du tout la faire, la comparaison. C'est le principe des records, quoi. C'est quasiment tous les records, on peut les contester en disant oui, mais il y avait ci, il y avait ça. Les records, ils ont qu'une valeur symbolique, voilà.
Ouais, mais sinon, on n'en parle jamais.
Oui, on en parle, juste pour dire voilà, il a battu le record, puis c'est bon. Sinon, moi, ma citation,
oui,
je vais pas vous dire qui c'est. J'ai voulu cette vidéo, j'aime bien moi. C'est, il n'y a pas de racisme, mais peut-être un mot ou un geste déplacé. La victime devrait se dire que ce n'est qu'un jeu et serrer la main.
C'est pas notre cher Hamilton?
Non.
Je sais. Mais c'est pas de la F1.
Ah non, c'est pas de la F1.
C'est pas, c'est Blatter.
Oui, c'est la polémique provoquée par Blatter. Sincèrement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça va, il y a pas qu'en Formule 1 qu'il y a des coups. Et c'est vrai que, on peut quand même se sentir accablé. On a quand même eu des scandales. On a quand même eu Bernie qui a dit que, bon, Hitler, il savait faire les choses bien et tout. On a eu, dernièrement, je sais pas, on a eu, Alesi aussi qui disait qu'on devrait retirer les licences aux femmes. On a quand même des mecs qui étaient quand même assez balèzes. Briator, par exemple, aussi. Pour faire des phrases polémiques. Et là, je me suis dit, ah, ça va. Enfin, il y en a un autre. Et il est pas dans la F1. Ça, c'est bien. On a toujours des dirigeants qui sont un petit peu cons, mais comme dans les autres sports.
Comme dans les autres sports. Je vais penser à, là, juste 30 secondes sur Tine.
Oui.
Et ce truc, bon, je pense que vous l'avez lu, hein. Il y a Bisbee, là, entre Tavo, les organisateurs et tout ça. Et ce qui m'a sidéré, c'est, non, faut s'imaginer le truc. C'est quand même les organisateurs américains qui se sont dit, ouais, le contrat, il est pas top, on va le changer, on va enlever des trucs qui sont pas réalisables, et on va l'envoyer à Bernie. Non mais vous vous rendez compte le truc, c'est les gars, alors c'est bien des Américains, tu vois, c'est bien des Texans, ils ont des coronets comme on dit, hein. C'est-à-dire se dire on va envoyer un nouveau contrat à Bernie et puis Bernie va l'accepter.
Oui.
Je veux dire la seule fois où quelqu'un aurait dû réussir à tirer de l'argent de Bernie ou des tout particuliers à Bernie, c'est sa femme quand ils ont divorcé, quoi.
Ferland, de quand je sais pas, j'ai lu l'article comme quoi il aurait pris en Europe.
Oui.
Je trouvais ça choquant quoi. Il y a quand même pas mal de fans de F1 qui sont en Europe comme on dit souvent, donc d'accorder plus de crédit aux nouveaux destinations et délaisser le public européen.
Ouais, j'avouerais, j'ai même pas lu parce que dès le titre en fait, enfin, on sait que c'est encore du Bernie quoi. Donc
là actuellement, hein, si on prend le calendrier 2012, il y en a 8: Espagne, Monaco, Grand Prix d'Europe, Grande-Bretagne, Allemagne, Hongrie, Belgique et Italie.
Ça, c'est un bon ratio.
C'est un bon ratio. Donc même en imaginant que Europe et Espagne, ça fait doublon quand même, hein.
Non, c'est mérité. C'est mérité, ils ont un grand champion.
Je suis d'accord avec toi, Dino.
Ah, c'est peut-être le seul sportif espagnol qui est pas dopé.
Qui est pas dopé,
ouais. Ah ouais, oui, c'est vrai.
Lui, on est sûr qu'il est pas dopé, c'est pas possible.
Je vois pas comment les pilotes pourraient se doper de façon.
Bah, c'est vrai. Il pourrait, je pense. Sincèrement, je pense que le dopage en Formule 1, en sport auto, est possible.
Faut pas imaginer des produits, comme dans d'autres sports qui, genre PO et tout ça. Je veux dire, l'amélioration, par exemple, de la masse musculaire, c'est pas franchement utile en Formule 1. Mais par contre, c'est vrai que des produits qui...
Sur la résistance physique et ce genre de
choses.
Sur la
résistance physique, sur l'acuité visuelle, tu vois, des choses comme ça. Pourrait être imaginé, tout à fait.
Mais j'ai envie de comparer aussi la F1 aux courses hippiques. C'est pas les jockeys qu'on dope.
Qui font l'effort. Oui, bah c'est vrai. C'est pas le jockey qu'on dope.
Donc en F1, c'est sensiblement pareil, sauf que les chevaux sont un peu plus nombreux. On passe à la course. Et au qualif.
Et donc, pour cette dernière place du compte de la saison, c'est un classique, hein. Pastor Maldonado. Alors, notez quand même que chez Virgin, D'Ambrosio a fait un meilleur temps que Glock. Parce qu'il faut quand même le dire, bon, D'Ambrosio il dégage, mais il a quand même fait une saison pas mal, quoi, par rapport au matériel qu'il avait.
Oui.
On peut noter que chez les Team Lotus, Kovalainen devant Trulli.
Mais surtout qu'en plus, ce week-end, Trulli était très en forme.
En Q2, en 16e et 17e place, les Sauber, peu moyenne. Petrov en 15e place. Les deux Toro Rosso, 13 et 14. Et quand même en 12e place, pour ce qui est peut-être sa dernière séance de qualif. Rubens.
La dernière fois, c'est heureusement qu'il y avait eu la course.
Voilà.
C'est heureusement qu'il y a eu la qualif.
La qualif. Et donc, Di Resta, qui arrive en tête des non-qualifiés en Q3, en 11e place. Ce qui est presque décevant pour la Force India, hein, vu les résultats qu'elle fait quand même depuis quelques semaines. En Q3, ils ont fait un effort. Puisqu'on a eu qu'un seul pilote à ne pas avoir fait de temps. C'est quand même un progrès, hein.
Oui.
Bon, c'est soumis, hein, mais c'est un progrès quand même. En 9e place, Bruno Senna. Ça, c'est bien.
Apparemment, la piste s'est refroidie. C'est-à-dire qu'au moment, il fait un premier relais, après, il s'arrête un peu, et la piste s'est refroidie. Et, très peu de pilotes, en fait, ont amélioré dans la fin de Q2. Donc, voilà, il était sorti au bon moment, je pense.
Sutil 8e, Massa 7e, Rosberg fait 6, Alonso, eh ben, forcément, c'est la 9e, 10e fois.
9e, je crois.
Oui, il a dit qu'il avait un abonnement. Je veux bien le croire.
Oh oui, là. Et comme d'habitude, hein, aux 4 premières places. Alors, d'abord les deux McLaren, hein, Button et Hamilton. Et donc, hein, pour bien finir la saison, hein, une première ligne Red Bull.
Tu dois te changer.
Weber donc deuxième et donc un premier 15e pole de la saison, Sébastien Vettel. C'était la 30e pole position de Vettel, c'est-à-dire qu'il a fait quand même une pole sur deux cette année,
ouais.
sur toutes les poles hein, qu'il a fait dans sa carrière. 38e pole position pour Red Bull, la 193e pour Renault. On va bientôt arriver quand même aux 200 pole positions pour le moteur Renault, c'est quand même pas mal, à une moyenne de 215,696. C'était une qualif un peu à l'exemple de cette année, quoi, voilà. Les Red Bull devant, les McLaren derrière, Ferrari 5e.
Mais Ferrari assez surprenante. J'ai trouvé que Alonso lui-même a assez dit étonné. Dans les essais, il semblait vraiment en délicatesse avec le train arrière. Genre, je sais pas si c'est lui ou s'ils ont trouvé un truc ou si c'est les pneus.
Ouais, il fait une 12-591 au final et Hamilton n'est qu'en une 12-480.
C'est d'ailleurs un peu le résumé de je trouve du Grand Prix de Ferrari, c'est que c'est sans doute l'un des Grands Prix où je les ai vus le plus en difficulté et où pourtant ils sont le plus proches finalement.
Quand tu dis que Ferrari est proche, non, c'est Alonso qui est proche.
Oui.
Donc on va passer à la course.
Et on va commencer par ceux qui ne sont pas dans le top 10.
Oui.
Puis tu me connais, je suis une grosse feignasse.
Bien sûr.
Et là, j'ai envie de profiter ce soir de Maël. En tout bien, tout honneur. Alors Maël, si tu l'acceptes, ce serait un honneur que tu le fasses à ma place.
Bah, je veux bien.
Eh ouais, bah pour les autres invités, fallait être une fille, hein. Je suis désolé les mecs, mais bon.
Du coup, les pilotes qui ne sont pas dans le classement, à la 21e place, nous avons Trulli, Yuzi, Glock et Ricardo avec 0 points. 20e, nous avons Buemi avec 4 points. 19e, Alguersari avec 7 points. 18e, Kovalainen avec 9 points. 17e, Maldonado avec 10 points. 15e, nous avons Perez, Senna, 18 points. 14e, Barrichello avec 29 points. 13e, D'Ambrosio avec 37 points. 12e, Petrov avec 38 points. Et 11e, à la place, voilà, Schumacher avec 81 points.
Lui aussi, il a un abonnement. Il viendra chez nous, on lui pointera son ticket. Merci Maël.
De rien.
Alors, il y a ce petit point traditionnel de Dino, hein. C'est lui qu'il donne à Kovalainen, parce que oui. T'es dur quand même avec Kovalainen, on t'a connu plus généreux.
Non mais voilà, c'est encore une fois le premier des autres. C'est le Sébastien Vettel des trois dernières équipes quoi, donc voilà. Puis comme j'avoue sincèrement, quand j'ai fait, ce qui est très rare, c'est que j'ai fait mon top 10 dimanche, ce qui est très très rare. Mm. Et quand je fais mon top 10 le dimanche, c'est que généralement, j'en ai un peu rien à foutre en fait, pour être honnête. Non voilà, donc voilà, je l'ai mis 10.
T'as fait ton top 10 devant dimanche F1
Même pas, je crois que je l'ai fait avant.
Oh.
Tu as un bout d'enveloppe, comme ça, je fais aller hop.
Et à noter qu'on a donné des points à Petrov.
Mais qu'est-ce que
j'en ai... Moi, j'en ai donné un. Dino en a donné deux. Maël en a donné quatre.
Mais Maël, pourquoi?
Moi, je l'ai mis au classement. De toute façon, il était dixième. J'ai mis dixième, voilà.
Attends, ça fait longtemps que j'ai fait mon top 10.
Petrov, alors c'est qui déjà? Il roule chez qui?
J'ai dû le voir sur le Grand Prix pour lui mettre des points.
À noter que t'as donné aussi un point à Senna.
Oui, Senna, pour sa qualif, parce que je trouve qu'il a fait une bonne qualif comparée à d'habitude, et puis je pense qu'il aurait pu rentrer dans les points s'il n'avait pas rencontré Schumi. Là, où, Non, je pense qu'il aurait pu rentrer dans les points, du coup, j'ai voulu lui donner un point.
Senna qui a quand même été pénalisé, hein, pour, alors, pas tant pour la touchette quand ils sont l'un à côté de l'autre, hein, ça c'est un fait de course, que après, en fait, la deuxième touchette qui a bousillé en fait la course des deux. Bon.
Ouais.
J'ai retrouvé pour Petrov en fait, c'est parce que je trouve qu'il avait fait une bonne remontée, je sais plus il partait combien tième et
il finissait dans les points.
Voilà, donc il finissait dans les points, donc
oui,
je voulais donner des points pour cette remontée, voilà.
Alors en dixième place, il a marqué 87 points, alors moi je lui ai donné 6 points, Maël lui en donnait 8, c'est Di Resta pour Force India qui a fini 8e, donc j'ai dû le mettre au classement. Force India qui a très bien marché quand même, au final, au global, il ramène 12 points quand même hein, du Brésil.
Ouais, enfin ils ont joué avec Mercedes, hein. Encore une fois.
Ouais, très très, très beau quand même. Une équipe voilà qui a vraiment progressé, là où justement Lotus-Renault, c'est des trajectoires croisées quoi, entre les deux équipes. Et ouais, beau final quand même pour Force India, comme je disais, 12 points, bien. Ils auraient même mérité plus pour pouvoir aller taquiner la place de Lotus Renault. Et toi, Maël, Di Resta?
Je lui ai donné des points parce qu'il a fait une bonne course. C'est pas lui qui s'est, à un moment, s'est bien battu, je crois, avec Rosberg. C'est, je crois que c'est
oui.
Je trouvais que, la passe d'armes entre les deux était assez belle à voir. Et puis, aussi pour leur fin de saison, que j'ai trouvé, une belle fin de saison, quand même. Il marque souvent des points, je crois, Di Resta, à faire sur ses derniers Grands Prix, du coup. Voilà, j'ai voulu récompenser pour ça.
Alors, à la 9e place, Elle a encore un pilote. On lui a tous les trois donné des points. Moi, je lui ai donné 2 points. Dino lui a donné 4 points. Maël lui a donné 10 points. C'est un pilote sauveur. Ça devait faire quelque temps, je crois, qu'il n'avait pas marqué de points au classement du SAV. C'est Kobayashi.
What?
Tu lui as donné des points, hein.
Ouais, non, mais je t'avouerais que moi, il y a que les, allez, 4-5 premiers qui m'intéressent.
Comme tout le monde.
Là, franchement, non, mais là, c'est pire. Tu me connais, j'ai toujours un truc à dire. Mais là, rien, le vide.
Bah, je pense qu'on peut noter, bah, pareil que Petrov, il a fait aussi une bonne remontée, je crois même plus grande que celle de Petrov, je sais plus combien il part. Mais non, il a fait une bonne remontée.
Non, non, et puis bah, il a quasiment tout le temps été dans les points pendant la course, donc voilà, enfin, il a permis à Sauber d'assurer la 7ème place au championnat constructeur, c'est bien.
Kobayashi, hein, qui avait marqué 97 points au classement global, devant lui, alors il n'y a que Dino à lui avoir donné des points.
Qui ça?
J'ai fait quoi, moi? 6.
Ah oh non, moi je vais donner des points. Moi? Mais non,
oui,
pas
toi.
Toi? Oh, c'est dire vraiment que j'étais pas passionné par les autres.
Non, mais tu n'es pas tout seul. Hein. Il a eu 128 points en tout, ce qui est pas mal pour un pilote qui n'a pas fini la course, qui lui a eu un vrai problème de boîte.
Non, j'ai dit me lance pas là-dessus.
Oui, c'est bien Lewis Hamilton. Allez, vas-y, parle d'Hamilton. Déperde-toi.
Oui, non, ce que j'ai aimé dans sa course, en même temps, ce qui m'a un peu inquiété, il a été très prudent, notamment derrière Massa. À un moment donné, Massa, c'est vraiment juste avant Ferradura, je crois. Massa, c'est vraiment défendu un peu comme un chien, à un moment donné, quand même.
Oui.
Il est resté derrière, alors que je pense qu'il y a quelques courses, il serait allé dans le tas. Et on a eu un autre exemple où là, par contre, c'est un peu plus inquiétant, c'est sur l'épisode du drapeau jaune avec Schumacher.
Ah oui.
Qui je trouve a été très bien décortiqué par Franck Montagny dans
et
Bourdé aussi dans Dimanche F1, où ils ont expliqué que c'est avant le drapeau jaune, il n'avait pas hésité, il fallait qu'il y aille, surtout que Schumacher le laissait passer, et le fait qu'il hésite et le geste qu'il a après derrière dans Ferradura en levant la main voilà de dépit, c'est vraiment significatif d'un mec qui se dit bon bah voilà, je vais me faire gauler, donc
pénalité,
vraiment
voilà.
D'un pilote qui doute.
Les vacances arrivent à point nommé pour lui, je pense.
Mais je l'ai même pas trouvé très saignant sur la course, quoi, donc
c'était pas le Hamilton de d'habitude, c'est
un Hamilton light.
Mais Hamilton, c'est vraiment du Coca light, c'est-à-dire que c'est noir à l'intérieur et autour c'est dur.
C'est vrai.
Ami du FN, bonsoir. À la 7ème place, il a marqué 133 points. Alors lui, on peut pas dire que c'est un Coca light, hein, parce que même si l'extérieur est aussi gris, mais pas vraiment pareil, hein, l'intérieur reste blanc. Hein. Lui, c'est du Canada Dry, c'est Nico Rosberg.
Ah, c'est dry.
Ouais, ah, c'est dry. Moi, je l'ai mis 8. Alors au classement, hein, parce que comme toi, de toute façon, moi, après la 5ème place, c'est... voilà. Emmael lui a mis 6 points. On l'a un peu vu. Hein.
Il a pas fait entièrement le Rosberg.
C'est ça le côté Canada Dry, Nico Rosberg. Ça a le goût d'un pilote de F1, ça ressemble à un pilote de F1, mais en même temps, on le voit jamais comme un pilote de F1.
Mais ça n'est pas un pilote de Formule 1.
Bon, moi je dis c'est au classement, hein, Nico Rosberg. J'espère qu'il sera visible quand même l'an prochain.
J'aime bien cette partie course qui va très vite, en fait.
Genre, oui.
Moi je me dis c'est nickel, j'ai même pas la coupée, c'est chouette.
Parce que on en a rien à foutre au-delà de la 5ème place.
Oui.
D'ailleurs, à la 6ème place, on en a rien à foutre de la 6ème place de Massa.
Oh non, quand même, non, quand même. Non, attends.
Là, elle lui a donné 2 points, moi j'en ai donné 4. Toi, Dino, c'est vrai que tu lui as donné 10. C'est ton côté Saint-Bernard, ça.
Non, c'est pour sa défense. Alors apparemment, ils ont détecté après les qualifications une crevaison sur un train de pneus. Ils n'ont pas réussi à en récupérer un auprès de la FIA. Donc c'est ce qui explique qu'il était sur 2 arrêts plutôt que 3. Bon alors après, la stratégie qu'ils ont utilisée était peut-être pas forcément la plus efficace, mais bon, ça, elle montre bien le fait de faire un relais entendre, un deuxième relais entendre où il a fini à l'agonie, puis finir en médium. Ça montre bien quand même le fait que Ferrari ne voulait pas utiliser les médiums ce week-end. Puis on comprend pourquoi quand on voit à la fin de la course.
Et ils vont être contents l'an prochain, les pneus sont plus tendres.
Oui, mais si Ferrari avait développé une monoplace justement qui s'adaptait aux pneus durs et médiums, l'année prochaine ils sont marrons, quoi. Non, Massa, c'est vraiment parce que il a fait une bonne défense et je trouve qu'il a été un peu plus saignant en course. Même si, encore une fois, il est largué par Alonso. Mais ce week-end, c'était vraiment criant, quoi. On a vu le coefficient Alonso, mais de façon monumentale. En qualif, en course, voilà, il y avait clairement deux pilotes différents dans deux voitures différentes, mais de la même couleur. Mais non, sinon voilà, sa défense sur Hamilton, il a connu une course tranquille. Ses donuts à la fin m'ont fait plaisir.
Ça ouais, c'était très très.
Voilà, simple. Lui c'est pas son dernier Grand Prix, ou c'était peut-être pas son dernier Grand Prix, mais au moins il s'est fait plaisir avec le public là où Barrichello a juste fait coucou. Bon voilà.
Est-ce qu'il a été sanctionné comme Hamilton en Angleterre? Chez Hamilton,
non.
On a.
Ah bah normalement il va avoir une amende, non?
En tout cas pas sur le résultat, je pense une amende comme Shinji.
Ça va, il peut la payer. C'est pas comme Virgin, enfin Marussia qui va devoir se saigner au sang pour pour payer l'amende après le Grand Prix du Brésil. Ah, ils sont riches chez Ferrari.
Ouais, c'est vrai.
Ah, on l'espère. On va passer à la cinquième place. Normalement, c'est le moment où le top 10 va devenir intéressant.
Oui, et l'émission avec.
Hein. Moi, je lui ai donné 10 points. Hein. Dino, tu lui as donné 8 points. Maël, tu ne lui as pas donné de points.
Mais que tu t'arrivais, Maël?
Vous, lui, en global, il a eu 238 points. C'est celui qui, quand même, est bien parti pour faire ce magnifique transfert, quand même, entre Force India et Williams. C'est quand même dingue, c'est-à-dire qu'il y a encore 5-6 ans, un transfert dans ce sens-là, on aurait dit, ouais, c'est bien, quoi. Et là,
c'est bien.
C'est dommage, c'est triste. C'est subtil. Comme on l'a dit, un très 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 bonne course des Force India hein, ce week-end.
Il devance encore Mercedes, voilà, c'est vrai que c'est devenu une habitude pour les Force India de devancer les Mercedes en ce moment. Donc voilà, ça mérite d'être souligné, mais bon, j'ai pas vraiment vu grand-chose de subtil. Un peu une course à la Rosberg d'ailleurs.
Donc en fait, on vous a menti, on vous a dit que ça serait les cinquièmes, mais c'est plutôt les quatre premières places qui vont être intéressantes.
Oui, bon, peut-être même attends, je vérifie.
Les trois premières.
Les trois premières, oui. Ah non. Ouais. Ah non, les quatre premières, mais les quatre premières.
Ah oui, quand même. Hein.
Crois-moi, les quatre premières.
En quatrième place, alors la quatrième place, on a été plus généreux hein, que la quatrième place, hein, puisqu'on l'a tous les trois mis troisième.
Ouais.
Il a marqué 371 points. C'est Fernando Alonso.
Felipe Massonzo, l'horreur. Ouais.
C'est dommage, j'ai eu Button.
Ouais. Mais je pense qu'il aurait mérité sérieusement son grand et son podium.
Son podium, ouais.
Ouais, parce que il fait quand même un bon départ. À chaque fois qu'il part cinquième, de toute façon, il fait un bon départ.
Oui. Mais vu qu'il part tout le temps cinquième, il fait que des bons départs.
Oui. Puis non, il a porté à bout de pas, peut-être pas à bout de bras, mais il a porté la Ferrari. Donc, pour conclure l'année, ouais, il aurait mérité son podium. Mais bon, la Ferrari n'aime pas les pneus durs, donc. Là, pas de podium.
C'est dommage parce qu'au final il gagne pas vraiment de place parce qu'il y a Hamilton qui abandonne.
Oui mais il était devant Hamilton. Dans la course.
C'est vrai, t'as raison.
Attention, ouais, sur Alonso là tout d'un coup la course m'intéresse. Non, moi sur Alonso c'est comme en qualif quoi, ça m'a étonné le rythme de la Ferrari en début de course. Outre le dépassement qui est très joli, mais c'est vrai qu'il s'explique aussi un petit peu par la volonté de Button d'éviter les débris. J'ai aussi aimé le moment où lui s'est fait dépasser par Button. Tu sais ce moment où Christophe Albon dit oh il le tasse, puis en fait tu te rends compte que non, Alonso ne tasse pas. Alonso laisse juste ce qu'il faut comme place. Mais c'est vrai que c'était criant sur la fin de course. On a revu, alors que la Ferrari se comportait plutôt pas mal en début de course, sur la fin avec les pneus tendres, la voiture légère, on a revu la voiture qui glissait de l'arrière, plusieurs fois elle a failli lui échapper, et puis il a accusé un retard, il a pris très lourd sur la fin de la course. Voilà, c'est dommage, parce qu'il fait une très belle course, quasiment le seul au début de course à être dans le rythme véritablement de
premier.
Voilà, j'allais dire oui. Vettel. Bon, Vettel, c'est avec son problème de boîte, c'est pas difficile. Mais voilà, moi, j'ai vraiment envie de le voir l'année prochaine au volant d'une bonne Ferrari.
Il va avoir le mort aux dents, hein, ça c'est sûr. Maintenant, c'est la voiture. On sait que le facteur Alonso, c'est bon, c'est la voiture.
Sincèrement, au prorata voiture performance, c'est pour moi c'est le pilote de la saison. Si on prend juste ce critère-là,
il a tiré la voiture.
Ce qu'il a fait cette formidable saison, il rate la troisième place au championnat, je crois, pour un point ou un truc dans le genre.
Ouais, un point.
Mais encore une fois, je suis un peu déçu pour lui, j'aurais aimé qu'il soit troisième parce que c'est quand même, il fait partie des trois pilotes de la saison. Et il a tenu l'équipe encore plus que l'an dernier à bout de bras.
Il signe quand même, je crois, 10 podiums, tandis que Massa en signe aucun, je crois.
Ouais.
Non, c'est incroyable de voir vraiment un pilote tirer la machine, parce que sans lui, la voiture, elle vaut pas ces positions qu'elle fait.
Non.
Alors, est-ce qu'elle vaut Massa? Peut-être pas, hein. Peut-être qu'elle vaut mieux que Massa, hein. Ça, c'est un autre débat. Mais lui, oui, clairement, il tire la voiture vers le haut, c'est incroyable.
Quand c'est vrai que quand on peut lire Fernando qui dit, mais mes deux dernières saisons chez Ferrari sont les meilleures, Bon, il fut quelques temps où j'aurais dit, bon, Fernando, arrête, tu te fous de notre gueule. Hein, c'est à l'époque où il était chez Renault ou chez McLaren.
Surtout, il y a quelques temps, il aurait pas dit ça.
Mais là, t'as envie de le croire parce que, c'est-à-dire que, bon, tu sais très bien que c'est aussi, voilà, c'est du très corporate parce que c'est Ferrari, etc. Mais en même temps, tu te dis, c'est possible aussi qu'il y ait un fond de vérité parce que ce qu'il fait quand même avec la voiture, en termes de pilotage, même si c'est très dur pour lui et que c'est démoralisant de se battre pour un podium, quand tu t'appelles Alonso et que tu te déchires en course, mais il a rien à se reprocher cette saison. Voilà, ce qu'il peut se reprocher, c'est la voiture.
Faut pas mettre des voitures avec des noms d'anniversaire, juste comme ça. Non. F60, F150. Non. On va passer au podium. Et sur la troisième marche du podium, lui n'est pas un coca-light. Il est arrivé troisième avec 446 points. Moi et Maël, on l'a mis deuxième, carrément. Dino, toi, tu l'as mis quatrième. Hein, 12 points.
Je sais qui vous avez mis quatrième, alors on va s'amuser. C'est sympa. Là, ça n'a pas saigné, mais dans 100 minutes, ça saigne.
C'est de l'huile de boîte de vitesse qui va saigner.
Excuse-moi, mais là, jusque-là, j'étais gentleman, mais tout à l'heure, tu vas en prendre plein de figure.
Donc, en troisième place, c'est Button.
Encore, quoi, voilà, tout simplement.
Oui, bah oui, voilà. Donc, ça y est, c'est bon. Et deuxième, c'est amplement mérité sur sa saison.
J'ai toujours eu quand même quelques doutes parfois sur ses choix stratégiques. Là, il a senti que ils ont vu que les pneus tendres sur la McLaren cramaient comme pas possible. Peut-être parce qu'ils avaient peut-être opté pour des choix un peu pluie et que donc du coup la voiture était peut-être un peu trop agressive sur le sec. Donc voilà, il a basculé sur une stratégie en médium. Moi, j'ai d'abord cru, et ça, c'est, je l'ai mis dans le résumé, qu'il allait finir la course comme ça, puisque il s'arrête à quoi, à 32, 33 tours de la fin. Et Paul Embry avait dit que les pneus pouvaient tenir 35 tours, les médiums. Donc je me suis dit, c'est possible. Et en fait, non, ils ont considéré les médiums. En fait, ils avaient le rythme normal qu'ils auraient avec les tendres, avec les médiums apparemment. Donc.
Parce que c'est ça, il se fait doubler par Alonso, il redescend un peu, puis il remonte. Jusqu'à redépasser Alonso en fin de course.
C'est que j'ai pas l'impression qu'il se soit nécessairement défoncé sur la fin. Je pense que tout simplement il était sur sa lancée, qu'il a commencé petit et qu'il a fini, progressivement, en ayant
bissé
la fin, la bonne stratégie, etc.
C'est progressif, puis comme tu l'as dit, c'est vrai que la Ferrari sur la fin de course, c'était pas ça. Enfin, ça se dégradait. Donc, c'est bien, ouais, un dernier podium, il a dû en accumuler pas mal quand même, hein, parce que bon, ça a beaucoup tourné derrière Vettel, mais Button, ouais, il a quand même aligné les podiums cette année. Hein.
Sur les 9 dernières courses, il fait 8 podiums, et le seul podium qu'il a raté, c'est en Corée du Sud, il fait 4e.
Ouais. Maël, t'as des choses à dire sur Button ?
Non, tout a été dit, il fait une bonne saison derrière Vettel, et il aurait peut-être pu taquiner plus longtemps Vettel s'il avait peut-être pas connu ses deux abandons, je pense.
Ouais.
Il y a une bonne saison dans l'ensemble pour Button.
Mais c'est quand même le paradoxe quand on pense au début de saison après le Grand Prix de Chine. Tout le monde disait, le seul qui peut arrêter Vettel, c'est Hamilton.
Hamilton, ouais.
Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est celui-là qui est le moins bien classé des 5 pilotes. et que finalement, celui qu'on attendait le moins, Button, parce que c'est toujours Button qu'on attend le moins, c'est lui qui a offert la résistance la plus âpre.
Oh, ils peuvent avoir beaucoup de regrets quand même sur la saison McLaren. Peut-être que, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu le retard au démarrage un peu sur la voiture, avec un meilleur départ sur la saison, sur les premiers Grands Prix, et les choses auraient peut-être pu être différentes. Allez, on va passer à la deuxième place.
C'est qui
celle où on va se déchirer.
Ouais, on en prend plein la gueule.
Il a marqué 487 points. Alors, Dino, qui est un grand naïf, l'a mis premier ?
Non, pas grand naïf, je vais t'expliquer pourquoi, Shinji.
Tandis que Maël et moi, on l'a mis quatrième. C'est Sébastien Vettel. Allez, on t'écoute.
Alors, je suis pas naïf, je suis incrédule. C'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre surtout pourquoi si tôt inventer un problème de boîte, alors qu'il est quand même plus facile pour laisser passer un pilote.
Je pense qu'il y a eu une alerte quand même. Hein.
Moi, sincèrement, je crois pas à la théorie du complot. Je pense que surtout ce qui fait mal à Vettel, c'est qu'à un moment donné, il a fait le meilleur tour parce qu'il voulait attaquer, etc. Ce Vettel, lui, il est comme ça. Il attaque, voilà. Et ils ont aussi pâti du fait que chez McLaren, il y a eu un problème de boîte aussi, mais où là, ça a cassé. Donc on se dit pourquoi ça a cassé chez McLaren. McLaren et pas chez Vettel, donc il y a un problème, il y a un loup quelque part. Moi, je pense que c'est surtout quand on écoute bien les déclarations qu'ils ont eues, ils lui demandent vraiment, c'est des consignes de prudence. C'est pas on a un problème, la boîte va casser. C'est vraiment attention, tes deuxième, troisième rapport, raccourcis-les parce qu'on a des alertes. Donc vraiment, il l'informe de ça. Alors après, effectivement, ça peut être des consignes pour laisser passer Weber sans que ce soit trop évident. Pourquoi, je sais pas trop. Aussitôt dans la course, quand même, ça me pose des doutes. Mais bon, ça a aucun impact sur la position parce que
je suis pas complètement en désaccord avec toi. Je pense qu'en effet, il y a eu. C'est pas un truc qu'ils ont pensé le soir, la veille, un truc comme ça. Hein. Non. Je pense qu'en effet, il y a eu une alerte sur la boîte. Mais je pense que c'était peut-être pas aussi important que ce qu'ils ont pu un peu le montrer.
Bah c'est ce qu'ils
ont une alerte, ils se sont dit sur l'occasion, ils se sont dit bon bah on va jouer la sécurité, hein, on va le mettre deuxième comme ça en plus Weber sera premier. Je pense que voilà, ça s'est joué plus comme ça. Mais après, je pense pas que la situation de Vettel ait été si critique que ça, surtout quand on voit son rythme de course.
Mais sur mon classement, moi j'avais décidé de mettre les deux premiers pilotes premier et deuxième et je me suis dit voilà, on a deux scénarios. Soit on a un scénario où Sébastien Vettel a effectivement laissé la première place, auquel cas il devait gagner, il était le plus fort, donc il est premier. Soit on a un scénario où il a vraiment eu un problème de boîte, et dans ce cas-là, ce qu'il fait en course, c'est juste énorme.
Bah oui.
Non, dans ce cas-là, il est premier. Donc moi, peu importe les deux scénarios, il est le vainqueur moral.
Parce que t'es quand même d'accord que par rapport à un problème supposé de boîte, il a eu quand même un rythme de course extrêmement élevé.
Oui.
Je veux dire, il était entre guillemets en délicatesse avec sa boîte. Il ne perdait pas de temps sur Weber. Il ne perdait pas de temps sur Alonso. Alors ça, alors je te l'accorde. Hein, si vraiment le souci était important, à la place des ingénieurs chez Ferrari, t'as envie de pleurer quoi.
Bah oui.
Si t'es pas capable de rattraper une voiture qui a des problèmes sur deux rapports de vitesse.
Mais je suis tout à fait d'accord, mais à la base, ça dépend aussi de la définition de quel est le problème qu'il a. C'est ça le truc,
oui.
C'est que
on le saura jamais vraiment.
Voilà, malheureusement. C'est là où je trouve que Red Bull n'est pas clair, c'est que Red Bull ne dit pas exactement quel est le problème. Qu'ils disent, ils ont plus d'huile ou etc. Ou c'est juste une alarme. Voilà, le niveau d'huile qui nous semblait anormal. Oui, bah c'est dans ce cas-là, c'est aussi ce qu'a dit Button. Des fois, on nous a demandé pendant la course de faire attention à la consommation de carburant. Et juste derrière, bah nous, on s'adapte. Au bout de 5-6 tours, on fait les mêmes temps qu'avant parce que, bah voilà, on passe les rapports de vitesse autrement et compagnie, parce que c'est notre boulot de nous adapter.
C'est vrai qu'il était en mode pluie.
Oui, il paraît.
Ça, ils l'ont fait remarquer. Oui, et c'est vrai qu'après, quand tu le voyais, il avait son feu rouge qui clignotait. Apparemment, c'était mieux pour la boîte. Mais c'était impressionnant. D'ailleurs, il a fait un peu... C'est rare que Vettel se la pète, hein. Mais quand même, évoquer le comparer.
Non, Vettel se la pète souvent. Enfin, c'est vraiment, je suis fan de Vettel, mais Vettel se la pète souvent.
Ah oui, mais là, c'était un beau truc, hein. C'est-à-dire comparer sa course... Avec, donc c'est la victoire, c'était en quelle année, en 91 la victoire
hein, oui, bah c'est l'une des scènes du film Senna, quoi.
C'est un moment même de bravoure. Lui, c'était, il a fait toute la course en 6e, avec les vibrations qui allaient, et puis il a fallu le porter hein, sur le podium, hein, Senna. Ouais. Si vous avez la chance de le voir sur le film, c'est incroyable ce qu'il a fait. Comparer la course de Vettel avec la course de Senna, oui, donc calme-toi. D'accord, t'es double champion du monde, mais bon, calme-toi.
Mais sur Senna, il a aussi dit un truc intéressant et qui il dit voilà, bon bah il a comparé sa course à Senna en disant bon bah moi j'ai eu la victoire en moins. Il a dit mais Senna, il avait aussi le Brésil quoi. Il était au Brésil. Senna, il avait cette détermination où voilà, il pouvait pas la lâcher, c'est-à-dire il abandonnerait plutôt que de finir deuxième chez lui quoi.
Après ça va, il finit deuxième Vettel.
Et toi, Maël, quelle est ton opinion sur un faux ou un tox?
Je pense qu'il y avait quand même peut-être un souci de boîte, parce qu'en connaissant Vettel...
Ah, merci Maël.
J'hésitais à le mettre deuxième dans mon classement, mais finalement j'ai mis quatrième.
Mais comment tu peux hésiter entre la deuxième et la quatrième place, Maël?
Parce que je voulais donner à tout prix la troisième à Alonso.
Bah tu mettais Button quatrième. C'est comme moi.
Non, mais je pense qu'il avait vraiment un souci de boîte et que il aurait pas donné si facilement, je pense, la victoire à son coéquipier.
Ouais.
En connaissant le bonhomme, quoi.
Avec tous les doutes qu'il y a eu, il y a eu pas mal de citations plutôt originales de plein de gens, genre Dominicali qui dit, mais ils se souviennent que les consignes ne sont plus interdites.
Aux... Oui, Dominicali, lui, il a aussi dit, dis donc, ils sont vraiment doués pour résoudre les problèmes. Il y a que, finalement, il y a que Christian Horner qui a été un peu pisse-froid, en disant, oui, je vous le jure, la main sur le cœur et la pression sanguine sur le muret des stands en étant la preuve. Il y avait bien un problème. Ouais.
Ouais, mais les déclarations de Horner pourraient laisser entendre que il y avait peut-être pas de problème, quoi, le fait qu'il se justifie.
Oui,
oui, oui.
Pour certaines personnes, ça pourrait dire, non, mais s'il justifie, c'est qu'ils nous ont raconté du pipeau.
Mais c'est-à-dire que, même moi, je trouve, quand on voit la réaction de Vettel, à Abu Dhabi quand il abandonne, qu'il rentre au stand et le mec, finalement, il devrait s'en foutre. Mais non, il a quand même un geste d'humeur sur son volant. Et là, tu vois un Vettel, qui a quand même perdu la course, qui dominait, hein, jusque-là, quand même.
C'était incroyable.
Quand il sort de la voiture,
tout content. Les deux sont sortis de la voiture.
Oh, bah, c'est bien. Donc tu te dis, soit lui, sous notre gueule, soit vraiment, il est très content de sa performance d'aujourd'hui. Il avait un vrai problème. Mais c'est ça le truc, c'est-à-dire que la réaction peut être expliquée par les deux choses. Donc oui. Voilà, c'est impossible de trancher.
En plus, la scène était super drôle quand tu vois la réaction de Weber, qui vient de gagner, et de Vettel. Qui fait une deuxième place, donc qui est quand même décevant, hein, par rapport au niveau de Vettel cette année. Vettel, super content et tout, salut, merci pour la voiture et tout ça, avec le petit, la petite tape là sur le taureau, ça, voilà. Ouais. Et Weber, ouais, super, allez, vas-y, je me barre.
Mais même en conférence de presse après course, pose la question à Sébastien Vettel sur sa boîte, sur le fait qu'il se soit adapté, le fait qu'il ait fait le meilleur temps et compagnie, qu'il soit adapté. T'as Vettel qui dit, bah oui, écoutez, je me suis adapté, à un moment donné, j'ai conduit le tracé différemment et donc j'ai réussi à trouver mon rythme, surtout avec les pneus tendres et tout. T'avais Jenson Button aussi qui disait, nous les pilotes, on est payés aussi pour nous adapter à ce genre de situation et compagnie. Et t'avais Weber qui s'est mis à parler de sa course. Oui, bah, en ce moment, ouais, moi, j'ai bien roulé et tout, vers la fin, c'était plus facile. Et tu dis, mais t'es hors sujet, mon garçon, là, de quoi tu parles? J'avais l'impression qu'en fait, ça le saoulait de voir parler de ça.
Bah, justement, on peut passer à la première place, donc vous aurez compris, c'est Weber, hein. Weber qui marque 532 points. Alors, Maël et moi, on l'a mis premier, et Dino, tu l'as mis deuxième, forcément.
Ouais.
Quand même, un 19 courses pour... Et encore dans des conditions, parce que bon, même si on considère qu'il a vraiment eu un pépin, Vettel, qu'il a dû lâcher la course, voilà, on se dit, il a quand même fallu attendre que Vettel ait un pépin,
ouais,
pour qu'il puisse espérer gagner la course, c'est quand même dingue.
Et du coup, pour nous, il nous arrange dans un petit dilemme qu'on avait, c'est qu'on a commencé à écrire la lettre qu'on va joindre avec les diplômes du SAV, etc. Et alors, on est un peu focus, hein, on est obligé. On est 10 tyrambiques sur la saison de Vettel, 10 tyrambiques sur le travail de l'écurie. Et dans la première version que j'avais faite, j'avais voulu jouer le franc jeu en disant, malgré une saison loin des attentes, Marc Weber nous a offert de bons moments à Spa avec son dépassement sur Alonso, en Chine avec sa remontée. Puis il y a quand même le souvenir de 2010, donc on lui souhaite une bonne saison 2012.
Voilà. Mais bon, c'est dit, soyons un peu faudherges quand même.
Et donc,
c'est pas notre habitude, mais bon.
Il y a quand même un vide, quoi. C'est-à-dire que même si on n'est pas faudherges, on a un peu changé la formule en disant, voilà, il a fait une bonne saison, on va garder des grands souvenirs de sa saison. On est quand même content qu'il ait eu une victoire, parce que ça rééquilibre un petit peu, voilà, avec le côté vraiment, les gars, on vous flatte à Max, Sébastien et l'équipe. Puis entre les deux, Weber, bon, on essaie de faire un paragraphe pour parler de lui. Donc là, on va pouvoir dire que c'était une brillante victoire.
Vous pouvez nous envoyer, si vous souhaitez, oui. Un mot...
Voilà. Alors, on peut donner une date, on va vous donner jusqu'au 9, voilà, puisqu'on vous présentera, enfin, le 9 ou le week-end qui est après, hein, donc ça fait 9, 10, 11, 11 décembre, puisqu'on fera une vidéo dans ces eaux-là où on vous montrera le diplôme pour que vous puissiez un petit peu voir ce qu'on envoie. Donc vous pouvez nous envoyer vos messages que vous voulez joindre à Red Bull. Pour le moment, on n'en a qu'un, donc ça serait bien qu'on en ait plusieurs. Sinon, si on leur envoie en disant, voilà, vous avez des petits messages de nos auditeurs et qu'il n'y en a qu'un, voilà.
Voilà.
un petit peu foutre les boules. Donc, même si vous ne maîtrisez pas l'anglais, ne vous inquiétez pas, vous nous l'envoyez en français, nous on fera la traduction, il n'y a pas de problème. Puis bon, il y a Rocky qui pourra faire la traduction là-dessus. Voilà, donc surtout, vous avez voilà une quinzaine de jours pour nous l'envoyer. Nous, le Colin partira dans le courant du mois de décembre pour Noël. Ça va lui faire plaisir à Sébastien.
Il va être touché.
Surtout qu'il est beau, le diplôme, j'ai dit.
Oui, il est joli, vraiment.
Oh, mais c'est quoi ce... Oui, il est joli, ça y est. T'as pas compris, non, le sujet, que j'ai un ego qu'il faut que tu me flattes.
Mais oui, il est beau.
Alors, il est magnifique.
Il est beau.
Il est magnifique, Shinji.
Il est beau.
Il est merveilleux. Fantastique, bon. Incroyable.
Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je te pardonne tout. Il est très beau.
Ah, merci, Shinji.
Sinon, la course de Weber, quelque chose à rajouter ou pas? Parce que finalement, il a eu une course assez tranquille, hein, à partir du moment où Vettel se fait dépasser.
Il a une course presque à la Rosberg.
À la Rosberg ou à la Vettel, pour le coup.
Ce qui est bien, c'est que au moins, alors que ça fait quand même plusieurs courses qu'on lui reproche, qu'on dit ouais, bon, ouais, s'il veut profiter de consigne, il faudra déjà qu'il soit derrière Vettel. Là, au moins, il était en position.
Allez, on va passer au classement. Donc, le classement final du SAV 2011.
Ah ouais.
Voilà, je vais les donner, hein, parce que c'était la dernière. Donc, Vettel, 357. Il aura fait moins bien que l'autre classement. Button 273, Alonso 254, Hamilton 238, Weber 234, Schumacher 117, Massa 116, Rosberg 98, Kobayashi 42, Petrov 32, Heidfeld 31, Sutil 27, Di Resta 24, Alguersuari 23, Perez 17, Senna, Maldonado, Buemi 8 et Barrichello et Kovalainen 1. Chez les constructeurs, Red Bull 581, McLaren 511, Ferrari 380, Mercedes 215, Lotus Renault Grand Prix 71, Sauber 59, Force India 51, Toro Rosso 31, Williams 9, Team Lotus 1. Et alors j'ai noté, parce que c'est vrai que quand on prend par exemple l'éternel débat, Lotus Renault, ils sont cinquièmes au classement, et c'est vrai que sur la piste ils sont pas cinquièmes. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire ça. Oui. Et je me suis dit, la logique voudrait que, tu sais, nous, le classement du SAV cherche un peu à rééquilibrer. Et pourtant, Lotus Renault est aussi cinquième au classement du SAV. Alors, j'ai regardé un peu comment les choses avaient évolué. Donc, en comparant avec l'Allemagne, qui est donc le dixième Grand Prix, la mi-saison, j'ai eu envie de voir, hein, finalement. Parce que finalement, on critique, mais on fait pareil, après tout. Hein. Et c'est quand même intéressant, parce que on se rend compte que LRGP, donc, qui a marqué 71 points au total, en Allemagne, ils étaient à 61. Donc, ils ont marqué que 10 points, quand même, hein, sur toute la mi-saison. Ouais. Sauber, c'est à peu près pareil. 59 aujourd'hui, 54 en Allemagne.
Ouais.
Ils ont marqué que 5 points en mi-saison. Et là où c'est vraiment très impressionnant, et où finalement, c'est un peu comme l'autre classement. C'est-à-dire que si la saison avait fait 22, 23 courses, Lotus Renault serait plus cinquième.
Même 20 courses, hein, s'il y avait eu Bahreïn.
Pareil. Force India, 51, ils étaient à 15.
Ouais.
Et Toro Rosso, 31, ils étaient à 10. Donc, finalement, on a un résultat très similaire, mais comme le vrai classement, finalement, la grande majorité des points de Lotus Renault, bah, ils viennent de la première partie de championnat.
Mais
et
c'est vrai.
Et de voir d'ailleurs même Heidfeld qui est pas si loin de Petrov, c'est à la fois impressionnant et même inquiétant.
Mais c'est vrai que ça fait aussi partie de ce fait que je pense que la fin de saison est d'autant plus décevante que le début de saison avait été tonitruant pour le Grand Prix. Tout le monde y a cru, enfin même moi qui pourtant était critique envers Lotus, dont je trouvais un peu, voilà, j'ai toujours dit que je préférais le team Lotus à l'équipe Lotus Renault Grand Prix parce que voilà, je trouve que le comportement de Lotus a pas été très honnête envers Tony Fernandez. C'est vrai qu'au début de la saison, j'ai mis un peu le mouchoir sur mes critiques parce que voilà, ils ont fait un très bon début de saison, puis que ça s'est effondré. Quand tu prends le Grand Prix d'Allemagne, oui, c'est après le Grand Prix d'Angleterre, après la polémique des diffuseurs soufflés, après les copains souffleurés qu'ils ont eu.
Le fait qu'ils aient abandonné Heidfeld, était-ce finalement, est-ce que c'était pas une erreur?
Moi, je persiste les signes, ils ont eu raison, on peut les critiquer, on peut parler autant qu'on veut du cas Heidfeld, c'est peut-être une erreur, mais c'est quand même une équipe qui devait chercher des pilotes à former, qui devait chercher de nouveaux, la nouvelle génération de pilotes, quoi. Donc, fallait prendre une décision, ils l'ont pris, elle est courageuse, elle est contestée, d'accord. Mais bon, il fallait la prendre.
Alors à noter dans l'autre classement, donc Vettel qui déjà ne pouvait pas espérer marquer 400 points, hein, on savait que ça resterait bloqué à 399, bah, fini avec 392 points. Button donc confirme, hein, parce que ça fait quand même un certain temps qu'il est à la deuxième place, donc cette place de vice-champion du monde qui a tant de valeur cette année, faut bien le dire.
Oui.
270 points. Weber avec sa victoire fait 258 devant Alonso 257. Comme quoi, hein, cette place sur le podium, elle lui aurait valu une troisième place. Hamilton, 227. Donc ensuite, hein, y a Massa, 118, hein, Rosberg, 89. Hein, donc jusqu'à Maldonado, hein, qui est le dernier classé avec un point. chez les constructeurs, parce que c'est là qu'il y avait le plus d'intérêt, finalement, les derniers enjeux pour ces dernières courses. Donc Red Bull, hein, 650 points, McLaren 497, Ferrari 375, Mercedes 165. Et donc ensuite, donc on a Lotus Renault Grand Prix 5e avec 73 points, 6e Force India avec 69. Donc avec c'est quand même ces 12 points hein, qui marquaient dans le dernier Grand Prix, c'est pas passé bien loin que Force India passe devant Lotus Renault. Sauber confirme sa 7e place, 44 points devant Toro Rosso hein, qui est donc reste à 41 points et Williams qui est 9e est à 5 points. Et à noter que la 10e place, hein, qui est la dernière place hein, qui permet aux équipes de recevoir un petit bout du pécule,
ouais.
Hein, et ben c'est Team Lotus pour une 13e place, je crois, ce qui est amplement mérité. Sur ce, on va passer au fait marquant. Alors, pour une fois, il n'y a pas eu l'effet Hamilton. Hein. C'est étonnant, c'est incroyable.
C'est pas faute d'avoir essayé, Shinji. Hein.
Ouais. Pourtant, les réponses avec Hamilton font quand même plus de 50%. Hein.
Ouais.
Puisque donc est arrivé en 3e place avec 17 votes, 25,37% des voix. Je crois que c'est toi, c'est ta proposition, petit Vénard. Hamilton Alonso, il s'aime.
Ah oui, c'est moi.
19 votes, deuxième. Hamilton qui renoue avec la victoire, 28,36%. Donc au total, hein, à nous deux, on a quand même fait plus de la majorité. Et donc, premier avec 31 votes.
C'est assez... Comment tu dis, essaye d'assurer le truc.
Toujours. Avec 46,27% des voix, la crevaison de Vettel, qui partait quand même favori, hein, faut bien le dire. Donc, vous avez été en tout 67 à voter, on vous remercie. De même, on remercie tous ceux qui ont voté au top 10. Et globalement, on remercie tous ceux qui ont voté d'une façon ou d'une autre pour le SAV cette année. Et donc, Dino, pour ce dernier effet marquant de l'année.
Bon, c'est bien évidemment le problème de boîte de Vettel.
Oui.
La boîte de Vettel qui offre la victoire. Non, c'est trop long.
Tu peux pas simplement dire le problème de boîte de Vettel.
Mais non, parce que je veux dire que ça offre. Non, parce que je suis malin. Je veux jouer sur la Mark Webber qui bénéficie des problèmes de Vettel.
On peut pas faire... Ça va, c'est court.
Oui, non, mais voilà. C'est... Après, si tu pars de la boîte, etc., c'est obligé de.
Alors après, c'est à moi. Est-ce que j'ai le droit de dire je m'en fous Kimi de retour?
Non, ça concerne pas le Grand Prix, Cindy.
C'est vrai qu'il n'y a pas eu non plus. Bon, je dirais bien la peut-être dernière course de Barrichello. Avec peut-être entre les guillemets.
C'est pas mal, c'est assez chance.
C'est à toi, Maël. T'as pas de chance, c'est vrai que.
Non, elle est bien tombée, moi, je trouve.
J'ai une petite idée, mais je sais pas comment formuler par rapport à Hamilton et Massa.
Oh, bah, dis-nous, on va t'aider.
Et qu'ils peuvent, ils ne s'accrochent forcément.
Ah.
Massa et Hamilton sont accros, hein, dans le genre, tu vois.
Ils sont accros, mais ne s'accrochent plus.
Elle est pas mal, je me dis, celle-là. Ah. Je retiens la tienne, du coup.
Voilà. Massa et Hamilton, 2 points. Ils sont accros, mais ne s'accrochent plus.
Oh, c'est long.
Wow, tu peux parler, toi.
Oh, non, mais j'ai essayé de faire court, je me dis. Mais aujourd'hui, moi, j'ai adoré, je sais pas si vous avez lu, dans la version anglaise, c'était Hamilton give a hug to Massa.
Ah oui.
Et moi j'imaginais, c'est Hamilton dans le paddock avec son petit carton Free Hugs qui se baladait comme ça. Puis il voit Massa, il fait oh Felipe, fais pas un câlin. Et moi j'étais tenté de faire une news qui s'intitulerait Hamilton fait un câlin à Massa.
Oui, bien sûr. Donc, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix du Brésil 2011
de Melun.
Le Grand Prix du Brésil de Melun. Donc Webber qui bénéficie des problèmes de Vettel, ou bien la peut-être dernière course de Barrichello, ou bien Massa et Hamilton, ils sont accros mais ne s'accrochent plus. Donc n'oubliez pas, hein. De toute façon vous le savez déjà, puisque vous nous écoutez, donc vous êtes allé sur le topic de l'émission et vous avez vu le sondage. Donc vous y avez déjà répondu,
oui.
Peut-être même que vous y avez répondu avant même de nous écouter.
C'est dingue.
C'est ce que je fais à chaque fois.
Ah, merci Maël.
C'est bien. Ça permet des votes neutres.
Voilà. Enfin, un peu de probité dans ce monde.
Sinon, au niveau des drive-thru, alors moi j'en ai donné un, que j'aurais pu donner, puis j'en ai donné un vrai.
Maël n'en a pas donné.
Non.
Mais j'en ai déjà parlé dans l'introduction en fait. Je voulais donner un drive-thru à TF1 pour la pub. Ça m'a vraiment énervé que la pub ils la foutent au moment où il se passe à chaque fois les actions. Je trouve qu'ils mettent plus de pub carrément comme ça. Voilà.
Oui, en plus, ils ont évacué la fin du Grand Prix.
Ils se sont particulièrement distingués quand même ce week-end. Hein. Parce que, on peut citer Brognard dans F1 à la une. Hein. Je vais les sortir, c'est la fin de saison. On a été... n'empêche, hein, la plupart du temps, le reste de l'année, on reste très cool avec TF1 et tout ça.
Oui. Faut quand même faut rappeler qu'au début du SAV, il y avait une rubrique qui s'appelait le Malbranck Stop and Go.
Voilà.
On revenait, c'était un peu le drive-through à quasiment à chaque émission.
Puis bon,
les commentateurs.
On s'est dit quand même, si un jour peut-être, hein, parce qu'après tout, hein, pourquoi pas, on s'est dit, ouais, on va se calmer là-dessus, hein. Comme quoi, on peut être fauderche.
Oui.
Mais bon, c'est la dernière de la saison, alors, on va se lâcher un peu, hein. Parce que Brognard, donc, nous a parlé, donc, des ERD fesses Cartmaster.
Ah, ça c'est, hein. Sur Canal+, ce samedi soir, en club T. Hein,
moi, je l'ai entendu, j'en ai parlé à Dino, et Dino m'a dit, mais oui, moi aussi, je l'ai entendu. Donc il l'a bien dit.
Les ERD fesses.
Les ERD fesses, ah bah oui. Hein. Malbranck qui s'est aussi distingué. Donc non, qu'est-ce que je dis Malbranck? Brognard qui s'est distingué. Brognard journaliste sportif. Hein. Comme VIP, il y avait Ronaldo. Hein.
Ouais.
Et c'est vrai que bon, on sait bien que Ronaldo a pris de l'embonpoint. Hein. Et lui a fait la remarque.
Chigi, tu n'as pas le droit de dire ça parce que quand on voit Ronaldo, on pense tous à ça.
Oui,
on a tous des trucs sur son poids. On est voilà. Bon, ça que j'étais pas obligé de le dire, mais on y a tous pensé.
Et aussi parler de Dimanche F1, hein, que nous avons fait un grand numéro ce week-end.
Oui.
Puisque sur une heure d'émission, ils ont dû parler 15 minutes du Grand Prix du Brésil.
Et encore, t'es généreux.
Oh oui, je suis généreux. Par contre, on a appris que le père de Franck Lagorce et la mère de Franck Lagorce étaient DJ.
Ah, ouais,
et que lui fait le DJ.
Non. C'est il a un truc avec des boutons et il fait mémuse avec. Parce que encore les deux premiers morceaux qu'il a fait étaient pas trop mal. Le troisième, je me suis cru à une mauvaise fête foraine quand même.
Alors en plus comme c'était le dernier, ils étaient tous habillés façon classe.
D'ailleurs vous le voyez pas, mais nous aussi on est habillés façon classe.
Et Charles Pic, hein, Charles Pic, donc il y a quand même une coupe de la ressort celle-là.
C'est Justin Bieber de la Formule 1.
Oui, ça c'est ce que tu dis. Hein.
Oui, bah, c'est vrai.
Moi, je dis, il a une coupe qui a un aérodynamisme interne qui colle parfaitement à la forme du casque.
Oui.
C'est magnifique.
Charles Pic qui a d'ailleurs découvert la Formule 1 grâce à Bourdais. C'est maître Bourdais apprend la Formule 1 à Charles Pic, puisque à un moment donné, le pauvre petit Charles a voulu dire oui, puis il a toujours les bons appels à propos de Button, il a toujours les bons appels en stratégie, etc. Et là, Bourdais, attends, je t'arrête. Tu vas vite découvrir. Que en fait le pilote il est juste consulté, hein, c'est l'équipe qui décide.
Bon, on passe au concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Opposition. Un concours sans musique qui fait flipper ni question à la con, quoique.
Le concours. Le dernier concours à proprement parler avec cette question qui nous était posée par Steve. Combien de tours au total Rubens Barrichello a-t-il mené à Interlagos en Formule 1? Et la réponse est Shinji.
Et je sais pas, mais ça doit pas faire beaucoup.
Alors tu prends son âge et tu retires 3, ça fait 60. Il a mené 60 tours, Rubens. Donc tu nous as donné une petite thématique. Cette thématique, Shinji, peux-tu nous la rappeler?
J'ai beaucoup hésité. Je pense que j'aurais dû prendre un truc plus sérieux. J'aurais dû demander une thématique Batman. Mais non, je vous ai demandé une thématique centrale nucléaire.
Oui, et les gens ont participé, Shinji.
Ben oui.
Puis nous avons eu deux réponses. Et donc, deux questions que nous allons vous poser. Alors, je vais d'abord poser à Shinji, il va en choisir une, et après, on vous expliquera comment ça va fonctionner, parce que c'est un petit peu différent des autres concours. Shinji, première question. Quel sponsor actuel d'une écurie de Formule 1 a fourni les réacteurs 1, 2 et 6 de la tristement célèbre centrale de Fukushima Daiichi?
Ouais.
Deuxième question. Quel est le rapport entre l'île longue et le domaine nucléaire?
Alors, j'ai vraiment envie de prendre la première, parce que vous vous souvenez que quand, en plus, tu m'as demandé, et j'ai dit, ouais, c'est en hommage au Japon. Donc non seulement c'est en hommage au Japon, c'est la centrale nucléaire, et ça a un lien avec la F1, et ça c'est fort, quoi.
Tu es sûr que tu la prends, j'ai dit?
Ouais, je vais prendre la première.
Tu es sûr?
Oui.
Tu vas faire pleurer Maëlle. Et donc bravo Gus Gus, que nous avons reçu à Abu Dhabi, et désolé Maëlle.
C'est pas grave.
C'est Suzy qui choisit, moi j'y suis pour rien. Tu vois, j'essaye dans le ton d'idée de dire, c'est de un petit flux mental en disant, j'ai dit, prends celle-là, tu sais, parce que je t'aime bien, mais non, ça marche pas. Il est trop honnête.
Bah, oui. Il était pas aussi original que celle de l'escargot.
Oui, non, c'est vrai.
Mais c'est vrai, faut essayer des... Enfin, c'est bon, vous connaissez mon mode de pensée,
oui,
quand
alors,
même.
Oui, alors, quand tu dis, il a plus de questions sur les escargots et une question qui cherche comment j'ai divorcé en japonais. Voilà, essayez-vous de vous adapter au niveau. Donc, pour participer à ce concours pour ta proposition. Je rappelle donc la question proposée par Gus Gus, qui remporte un petit ticket avec son nom dessus. Il s'agit de trouver quel est le sponsor actuel d'une écurie de Formule 1. On va vous aider un petit peu, hein. C'est un sponsor qui est arrivé en courte saison, qui figure sur une voiture de couleur verte. Voilà. J'en dis, mais sans trop en dire, pour pas trop vous indiquer. Je vous dis pas si elle est verte et jaune ou verte et jaune. Hein. Je vous dis, elle est verte. Et donc, quel est donc ce sponsor, hein, du Team Lotus, hein. Allez, je balance. qui a fourni les réacteurs 1, 2 et 6 de la tristement célèbre centrale de Fukushima Daiichi. Voilà. Pour nous répondre, on va vous fixer jusqu'au 9 décembre. Voilà, donc vous nous envoyez un mail juste en nous donnant la réponse. Là, pas besoin de questions, pas besoin de rien, il s'agit juste de répondre à la question. Voilà, donc vous nous fournissez la réponse. On prendra les différentes réponses et comme l'année dernière, on fera une petite vidéo pour faire le tirage au sort global. Et donc, on procédera d'abord au tirage au sort de la réponse à cette question, puis au tirage au sort global.
Donc là, ne donnez pas de questions, hein, ça sert à rien.
Voilà, on n'a pas besoin de questions, c'est le plus simple de la saison, c'est celui-là. Hein, en plus, la réponse est simple, hein.
Oui, ça va, on a déjà bien ciblé.
Oui, bah, en plus, ça tient en deux lettres, c'est bon. Mais si vous n'avez pas participé cette saison, dites-vous, tiens, celui-là, bon, c'est pas grave, j'ai pas à bosser, faut juste que je réponde. Voilà, c'est sur une voiture verte, ça tient en deux lettres, bon, allez hop. C'est américain. En français, ça veut dire jeu. Ouais, je peux pas faire plus clair.
Donne la réponse carrément, c'est
non, 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 non. J'ai comment dire, j'ai une conscience professionnelle.
Oui.
Mais j'insiste sur le j'ai une conscience professionnelle.
Oui.
D'accord.
Je vais tout dire.
Bon voilà, donc c'est vraiment vous trouvez pas la réponse, vous êtes des grosses feignasses.
Ouais, là vraiment. Allez, on arrive à la fin de l'émission parce que forcément on va pas faire des pronos et machin parce qu'il y a pas de grand prix après.
Bah on peut faire le prono de la saison 2011, 2012.
Ouais, bah en gros, ça ressemble au prono cette année, quoi.
Non, moi je vois Ferrari. J'y crois encore.
Bah écoute, hein, moi maintenant, je suis obligé de dire que, bon, Lotus Renault... ah désolé, hein.
Et toi Maëlle, qui vois-tu en 2012?
J'ai envie de dire quelqu'un, mais j'ai pas envie de le dire parce que j'ai peur de porter la poisse.
Ah.
Ah.
Ça commence par un A.
Et ça finit par un O.
Ça finit même par 11 os, soyons plus clairs. Il manque une lettre.
Maëlle, on va te remercier de nous avoir accompagnés.
Ah non, elle a mieux à faire.
Pourquoi?
Il n'y a pas de raison qu'elle y échappe.
Mais tu veux le... Avec quoi? Avec l'Australie?
Bah oui. Ou la saison 2012, elle se débrouille. Elle improvise.
Non, j'ai préparé quand même.
Voilà, ça c'est une femme, elle prévoit tout.
Voilà, elle est sérieuse et tout. Prenez-en de la graine.
Du coup, je l'ai fait sur la saison 2012. Donc, première raison, c'est après 109 jours d'attente, il est temps que ça recommence, quoi. C'est bon, 109 jours.
Oui, c'est vrai.
109 jours.
C'est 109 jours.
Moi, je trouve ça long, en tout cas. Super.
C'est long. C'est un peu moins long que 110, mais c'est un peu plus long que 108, quand même.
Bon, deuxième raison, en espérant que Vettel laissera la victoire à ses petits camarades, hein, quand même, faut partager.
Ah, ouais, son petit camarade. Oh, c'est pas un A, ça fait du parzo.
Troisième raison, puis cette année on va à nouveau découvrir un nouveau circuit, donc je crois, oui, cette année.
Oui, peut-être.
Peut-être.
Peut-être. Bienvenue au Texas. Bah non. Ah, c'est Chuck Norris, il est venu, il a tout pété, les mecs. C'est pour rien, désolé.
Quatrième raison, il y aura des Français, donc bon, ce sera cool, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Alors, cinquième raison. Voir les idées ingénieuses que les ingénieurs auront trouvées durant cette période hivernale.
Ah, c'est ingénieux.
Sixième raison, on a découvert que les pilotes s'aimaient, Hamilton et Alonso s'aiment, Hamilton et Massa s'aiment, du coup tout ira bien au pays des bisounours.
Oh, l'hiver sera long.
Et septième raison, on va enfin revoir Kimi, enfin pas pour les fans de Kimi.
Ça vaut toutes les autres raisons.
Ouais, bon... Non mais je dis ça, mais je suis super content, je suis comme toi. J'y ai pensé toute la journée, ça a égayé ma journée aussi.
Ah moi aussi, c'est waouh.
Bon, ça me fait chier parce qu'entre temps, moi j'ai été un peu infidèle, donc il va falloir que je lui explique. Oh Kimi, t'étais pas là, t'étais parti loin, tu sais.
Ça portait à confusion.
Voilà, tu sais, il faisait chaud, nos corps se sont entrelacés, moi la télécommande, lui le volant, tu vois, c'était, il y avait un fluide qui passait entre nous, voilà, c'était.
Non, c'est belle saison qui nous attend, Kimi,
espérons les autres qui vont enfin rattraper Vettel.
J'aime bien. Les surtout, c'est que la meilleure, j'ai dit Kimi, puis j'ai l'impression que Kimi va être champion du monde.
Enfin, oui. Horrible. Les Français, espérons les. Pour l'instant, on n'en a qu'un.
Oui. Hein. Ouais.
Avec une pensée quand même pour D'Ambrosio, parce que c'est dur quand même.
On s'en fout, c'est un Belge.
Ouais, mais j'ai envie quand même un peu de le défendre. Il a pas démérité sur sa Virgin. Vraiment. Moi, du D'Ambrosio pic, ça aurait été parfait.
Oui, je suis assez d'accord. Mm. J'aime pas Glock, donc. Oh, ça y est, je viens de me fâcher avec une fan.
Bah oui, parce qu'on a trouvé la fan de Glock.
Oui.
On se posait la question. Maëlle, merci. On a réussi notre objectif cette année. Faut qu'on s'en trouve d'autres, hein, pour l'an prochain.
Oui.
Oui.
Puis je voulais vous remercier aussi, vous, parce que c'est vrai que depuis je sais plus combien d'années, quand même, que je suis filmé ça avec 3 ans, je crois.
Ouais.
3 ou 4 ans. C'est vrai que je m'éclate quand même à les écouter. Même si je les écoute toute seule, je m'éclate bien. Je me pique des fous rires toute seule. Puis j'aime bien votre émission, le concept, traiter la F1 d'une manière originale et ludique. Bon, j'aime bien, sérieux. Du coup, je voulais vous remercier. Voilà.
Bah, merci à vous, pour toute la saison, ouais. Anciens auditeurs qui, parce que bon, on a quand même fait un pas dans l'inconnu en début de saison, et vous l'avez fait avec nous et vous êtes restés fidèles, donc merci à vous. Merci aux nouveaux auditeurs qui, ouais, ont accroché au concept. Merci à l'équipe de Fan F1 et en particulier à Romain qui a tout fait pour qu'on s'intègre bien dans le site et qu'on se sente chez nous et qui a même fait plus pour le SAV, voilà, parce qu'il nous a aidé à gagner de l'argent un peu avec le SAV cette saison, donc voilà. Puis merci à tous ceux qui ont participé aux émissions, et puis bah, on vous donne rendez-vous pour 2012.
Non,
oui,
il y a les SAV d'or avant quand même.
Oh,
pas
non,
109 jours. Ça sonne aura... le jour sur le SAV.
Oui, il y aura du SAV d'or.
Oui.
Il y aura de la vidéo pour découvrir le cadeau.
Oui. Ah oui, le cadeau.
Faut qu'on se dise.
Le cadeau.
Faut qu'on se sera au même endroit que l'année dernière.
Non, on va changer.
Non, alors ça c'est certain. On n'a pas encore fixé l'endroit, mais ça sera surtout pas au même endroit.
Non, parce que disons que l'année dernière, on a été malade un mois, donc...
Vous vous imaginez, là, c'est en plein fleuve, donc on était à tous les vents, hein. Donc, on a une idée en extérieur.
Devant la cathédrale.
Dit pas. On peut leur dire quand même qu'il n'y aura pas de guide cette année.
Non, oui, non. Soyez honnête. Hein. Non. Disons qu'il y a un rapport. Vous pouvez toujours acheter le guide, ça sera utile, vous apprendrez des trucs. Hein. Bon, les dates et tout seront plus à jour, mais il n'y a pas que ça dans le guide.
Non, il n'y a pas que ça.
Voilà, bon, il y a des pilotes bon, qui seront plus présents. Mais
non.
Peut-être Rubel sera encore là. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup d'investissements pour, au final, on n'en a pas vendu beaucoup.
Même si on est très content de l'avoir fait.
Voilà. Mais non, sinon vous nous retrouverez en 2012, qu'est-ce qu'on peut dire
Bah, que le SAV, c'est comme la F1. C'est jamais vraiment différent.
C'est jamais pareil.
Et c'est jamais pareil.
Aura-t-on l'éphéméride en 2012?
Non.
Oh.
Non, je vous promets, je lutterai. Je Alors, passerai l'hiver s'il faut. Je le tuerai s'il faut, mais il n'y en aura pas l'éphéméride.
Je dirais même, je vais encore un peu plus les teaser, tu vois, Dino. Hein.
Oui.
Je dirais que si on devait les comparer à un passage d'une année à une autre, hein, on n'est pas à un passage 2011-2012. Ni même un passage 2012-2013. On est plutôt sur un passage 2013-2014.
Ou 2008-2009.
Ou 2008-2009.
Oui.
Ça résume bien.
Oui, oui, oui.
On arrive à la fin de l'émission.
Ouais.
Ta dernière.
Ouais, c'est vrai.
Tu nous as fait des trucs alambiqués, tu nous as fait des trucs à deux balles la semaine... la dernière course.
Oui.
Qu'as-tu choisi cette semaine?
Donc pour cette dernière, j'ai une pensée pour toi. J'ai voulu faire simple, j'ai voulu faire clair. Alors, je vais te dire, au départ, j'avais pensé dire ce magnifique proverbe brésilien, une orange dans la rue, où elle est pourrie, où il y a des vers. Mais je sais que tu ne l'aurais pas compris. J'ai aussi pensé, quand il y a trop d'offrandes, le saint se méfie. Mais là aussi, tu l'aurais pas compris.
Quand même.
Alors après, je me suis dit, faut que j'aille plus loin. Faut que je fasse encore plus simple. J'ai pensé à cette citation, encore une fois brésilienne, Onde a uma parada de ônibus, todo bem. Mais là, à part le todo bem, t'aurais rien compris. Donc j'ai vraiment cherché encore plus bas, Shinji. Et je pourrais pas faire plus bas. Et j'ai cherché un proverbe afghan. Voilà. On n'ira jamais en Afghanistan, moi je me suis dit, je peux me permettre. Ce proverbe qui disait, bien que Dieu soit tout puissant, il n'envoie pas la pluie quand le ciel est bleu.